recueil de textes qui s'appelle Culture et Société, les éditeurs expliquent que l'histoire de la pensée de Marcuse est inséparable de l'histoire de l'Institut, l'Institut für Soziale Forschung de Francfort sur le Main, qui, fondé en 23, n'atteint son plein épanouissement qu'en 31 avec la nomination de Horkheimer comme directeur, et dont l'activité se poursuit en exil après l'arrivée au pouvoir des nazis à Paris, dans différentes universités américaines et dans l'Institut de recherche sociale reconstitué à New York. Pourtant, bien sûr, si les liens de Marcuse avec l'Institut de recherche en sciences sociales sont un fait avéré, il en a été l'une des principales figures avec Horkheimer et Adorno, il y a une vraie résonance, on va le voir, entre les écrits et les pensées des trois. Et si on peut aussi comprendre, disons, une telle l'aspect stratégique d'une telle présentation en introduction d'un livre qui présente des textes de Marcuse écrits en rapport avec l'Institut, il est probable que telle présentation, par laquelle on présente toujours l'œuvre de l'auteur, ou par laquelle on discute toujours l'œuvre de l'auteur, tend à réduire l'importance des travaux de Marcuse d'avant 1933, et notamment leur caractère assez formateur quant à l'originalité de sa pensée de la maturité. D'une certaine manière, on pourrait en dire autant de certains des travaux des travaux des autres membres de l'école de Francfort. Parce qu'en effet, comme je vous le disais, né en 1898 à Berlin, Marcuse a déjà quelques bagages quand il se rapproche de Horkheimer et de l'Institut, avec lequel sa collaboration commence fin 1933, juste avant l'exil. Aussi, s'il existe assez peu de documents et d'études sur la jeunesse pré-Institut de Marcuse, à l'exception de deux ouvrages majeurs que sont un ouvrage de Douglas Kellner qui s'appelle Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism, et un autre ouvrage de Gérard Rollet qui s'appelle Herbert Marcuse, philosophie de l'émancipation. Donc voilà, à part ces deux-là, il n'existe pas beaucoup de documents sur la jeunesse pré-IFS de Marcuse, mais voilà, je vais quand même en dire quelques mots. Donc après un début de vie adulte marqué par un engagement de militant auprès du Parti social-démocrate allemand, malgré quelques réserves à propos de ce parti de la gauche officielle, Marcuse s'éloigne toutefois définitivement de la social-démocratie après l'écrasement de la révolte spartakiste, et notamment les meurtres de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht en janvier 19, par la police contre-révolutionnaire du gouvernement SPD. Il entame à partir de 19 à Berlin un cycle d'études en littérature allemande, philosophie, économie, politique, qui seront l'essentiel de ses centres d'intérêt jusqu'à Eros et Civilisation, à peu près. Puis il rejoint Fribourg, 2 ans plus tard, pour entreprendre, sous la direction de Philippe Wichtop, une thèse de doctorat de littérature allemande qui soutient en 22 Der Deutsche Künstlerroman, c'est-à-dire le roman d'artiste allemand, qui est une étude systématique d'inspiration très largement hegelienne et lukachienne, qui n'a pas été éditée, donc je ne vous en dirai pas grand-chose. Après cette thèse, et suivant probablement le conseil de son directeur de recherche à l'adresse des étudiants juifs de ne pas tenter d'embrasser une carrière universitaire à cause de l'antisémitisme, Marcuse revient à Berlin au milieu des années 20. Il travaille pour une société d'édition, une librairie dans laquelle son père l'a aidé à prendre une part. Et c'est ainsi que sa première publication en 25 sera une recherche bibliographique sur Schiller, publication entrant dans son travail d'éditeur, et qui est sans importance selon son propre avis. Il ne revient à Fribourg qu'en 27, après la lecture du « Être et temps » de Heidegger, pour soutenir son Habilitationsschrift, c'est-à-dire sa thèse d'habilitation, en 32, qui s'appelle « L'ontologie de Hegel et la théorie de l'historicité » sous la direction d'Heidegger. C'est au cours des années 28-32 qu'il tente d'élaborer une approche phénoménologique du matérialisme dans une double critique à la fois de l'existentialisme heideggerien et du marxisme orthodoxe, l'une à partir de l'autre. Aussi, si on qualifie souvent Marcuse de philosophe du concret, c'est sans conteste dans les premières recherches qu'il mène à cette période qu'il va pousser au plus loin ce caractère. En effet, disons que cette tentative de philosophie concrète a premièrement pris la voie d'une interprétation ontologique du marxisme, que le philosophe justifie plus tard dans un entretien avec Habermas comme étant, selon lui, la seule possibilité à l'époque de réponse à l'échec de la révolution allemande et à la crise de la pratique qui s'en est suivie. Pour Marcuse, l'être étant de Heidegger représente, et je cite, « un tournant dans l'histoire de la philosophie, le moment où la philosophie bourgeoise se défait de l'intérieur et ouvre la voie à une science nouvelle et concrète ». Il s'agit de la tentative de, je cite à nouveau, « retrouver le sujet historique dans son caractère concret à la place du sujet logique abstrait de l'idéalisme rationnel », de mettre donc fin au règne indiscuté du cogito de Descartes à Husserl. Marcus fait sienne certaines préoccupations du maître de Fribourg, notamment la révélation de l'essence de l'humanité dans les termes de l'existence concrète et la recherche des conditions de possibilité d'une existence authentique. Pour autant, cette approche, qui procède en révélant l'historicité du sujet, doit également examiner la réalité matérielle. C'est d'ailleurs ce manque d'accent sur l'examen de la réalité matérielle qui, selon Marcus, fera échouer le projet de philosophie concrète chez Heidegger, menant ce dernier vers un irréalisme philosophique dont les catégories sont posées comme valides universellement et qui culminera dans son engagement en faveur du national-socialisme. En désaccord avec les visions des théoriciens dominants de la Seconde Internationale et à l'instar de figures du matérialisme dialectique comme Lukács ou Karl Korsch, le marxisme n'est pas conçu par Marcuse comme une théorie de socialisme scientifique. Il apparaît principalement sous la forme d'une théorie de l'activité sociale et de l'action sociale, je cite, en un mot, d'un projet de praxis révolutionnaire. La vérité du matérialisme historique ne réside donc pas dans son exactitude en tant que savoir scientifique dont on juge selon des caractères de rigueur méthodologique. La théorie marxiste est considérée comme partie intégrante de la pratique sociale. Elle doit aider par une analyse de ses possibilités historiques à mener vers l'acte radical, c'est-à-dire l'action qui ouvre la voie d'une réalité nouvelle et nécessaire en provoquant l'actualisation de la personne dans toutes ses dimensions. Son porte-drapeau est l'être humain conscient de sa situation historique. Son unique champ d'action est l'histoire comme catégorie fondamentale de l'existence humaine. Par existence humaine, ici, je traduis le Dasein. Marcus s'intéresse alors de manière tout à fait particulière aux écrits du jeune Marx, et notamment les manuscrits économico-philosophiques qui sont réédités à l'époque, et qu'il analyse comme une critique philosophique, je cite, de l'économie politique et une réflexion visant à fonder celle-ci au sens d'une théorie de la révolution. L'interprétation marcusienne cherche en fait à dégager les fondements d'une épistémologie de la praxis révolutionnaire pour réinterroger la crise de la pratique qui caractérise la période post-1919 en Allemagne. La place de la philosophie et notamment de la problématique philosophique hegélienne dans la pensée du jeune Marx est déterminante pour le jeune Marcus. Grosso modo, je cite, je mets des petits codes à la fin là, pour les livres, mais donc c'est les manuscrits économico-philosophiques de Marx. Grosso modo, et en termes schématiques, on peut avancer que la critique révolutionnaire de l'économie politique est elle-même fondée philosophiquement, et que d'autre part, la philosophie en train de se fonder porte déjà en elle la praxis révolutionnaire. La théorie est en elle-même une théorie pratique. La praxis n'apparaît pas seulement à la fin, mais dès le début de la théorie, sans que Marx s'engage pour autant sur un terrain étranger à la théorie et extérieur à elle. Ce faisant, cette interprétation se fonde sur un ancrage des catégories marxiennes dans la réalité de l'existence humaine par rapport à laquelle est critiquée l'économie politique traditionnelle dont les catégories restent abstraites et limitées au champ de la socio-économie. Une catégorie comme celle du travail, par exemple, est considérée par la critique marxienne, qu'analyse Marcuse, comme catégorie philosophique ayant rapport avec l'être et l'essence de l'homme. En analysant les étapes de la critique de Marx, Marcus montre comment ce dernier rompt avec la description purement économique, page 55, pour ramener la situation économique du travail à l'existence de l'ouvrier, à la réalité de l'homme. Marx révèle lui-même par là qu'une ontologie de l'homme fait irruption dans sa critique de l'économie politique, et nous sommes autorisés à chercher dans cette direction le terrain de cette critique, ou tout au moins à envisager la notion fondamentale de travail dans la direction d'une telle ontologie. La critique de l'économie philosophique de Marx devient ainsi pour Marcus une discussion de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Marx a placé sa critique à l'intérieur de la philosophie hegélienne, et cette dernière ne doit pas être considérée comme un simple complément de l'économie politique marxienne. Il prend alors position contre toute interprétation de Marx qui limiterait sa portée philosophique au profit de la science économique en réduisant le rapport Marx-Hegel au simple renversement de la dialectique hegélienne. On voit que le rapport que Marcus conçoit entre théorie et pratique ne peut se résoudre à une exclusion de la philosophie comme irrémédiablement attachée et cantonnée au domaine de la théorie. C'est là le sens de la vision marcusienne de la philosophie concrète. Elle n'est pas réduite, comme chez Lukács par exemple, à la simple idéologie. Elle est à la fois un mode de l'existence humaine et elle est existentielle. Si le sens de l'activité philosophique est la révélation de la vérité, et si celle-ci a essentiellement un caractère existentiel, il faut dire non seulement que l'activité philosophique est un mode de l'existence humaine, mais aussi que la philosophie, de par son sens, est existentielle. De quelque façon qu'on délimite le champ de la philosophie, celle-ci s'occupe toujours, dans la connaissance de la vérité, de l'existence humaine. Toute vraie activité philosophique n'en reste pas à la connaissance.
Très vite, Christophe.
C'est vrai, je vais vite. Ah, ben, faut me ralentir. Toute vraie activité philosophique n'en reste pas à la connaissance, mais s'efforce, en développant la connaissance de la vérité, de faire en sorte que l'existence humaine s'approprie celle-ci. Le souci de l'existence humaine et de sa vérité fait de la philosophie, au sens le plus profond, une science pratique. Il conduit aussi la philosophie au cœur de la détresse concrète de l'existence humaine. Pourtant, écrivant son essai sur la philosophie concrète au moment d'une des... PC, c'est sur la philosophie concrète, pardon. C'est le titre d'un manuscrit 1929. Donc, écrivant son essai sur la philosophie concrète au moment d'une des crises majeures de l'histoire du capitalisme, hein, Marcuse partage et reprend une grande partie de l'analyse lukacienne de la réification dans le capitalisme qui a, je cite, « vidé de tout contenu essentiel et réglé de l'extérieur par des lois étrangères, les modes de vie en société, qui a transformé le monde en entreprise où l'on rencontre des objets considérés comme marchandises, que l'on doit utiliser non pas pour accomplir en faveur eux les nécessités de l'existence, mais pour occuper ou remplir une vie qui, sans eux, tournerait à vide, jusqu'à ce qu'ils soient devenus réellement des nécessités. » Simplement, eu égard à la situation historique de la science, le philosophe berlinois affirme que cette dernière est désormais en mesure d'accéder à la compréhension de la crise que connaît alors le capitalisme, de ses causes, de la possibilité de sa solution. Et la philosophie a pour tâche de rendre concret ce savoir, de dresser ses vérités en face de l'existence menacée. La philosophie concrète dont Marcuse porte le projet doit s'attaquer aux problèmes réels qui agitent la société contemporaine afin de changer la vie et les conditions d'existence. Elle, je cite, « se soucie des combats et des besoins concrets de l'existence qui lui est contemporaine. Elle devient alors publique, ainsi que le philosophe, qui devient lui-même philosophe public, dans la figure paradigmatique de Søren Kierkegaard, dont les appels, attaques et provocations publiques sont vus comme des tentatives d'établir des changements réels de l'existence de son temps. D'une certaine manière, on peut voir dans ce projet de philosophie concrète par une tentative d'intégration de la phénoménologie et du marxisme, qui caractérise les travaux de Marcuse entre 28 et 32, une préfiguration, même si je ne connais pas bien ça, une préfiguration des développements phénoménologiques et existentialistes des auteurs français des années 40, je pense à Merleau-Ponty ou ça. On peut également y voir les prémices de l'interprétation marcusienne de la théorie critique. À cet égard, c'est intéressant de remarquer que la position du Marcuse de la philosophie concrète ressemble assez fortement à celle prise juste un peu plus tard par Horkheimer puis Adorno pour fonder le projet de la théorie critique, notamment, sans s'y limiter toutefois, quant à la réflexion interdisciplinaire, qui est une caractéristique essentielle de toute l'œuvre philosophique de Marcuse. Mais cette analyse de l'existence contemporaine du point de vue de la situation historique n'est-elle pas la tâche des sciences historiques, de l'histoire, de la sociologie, de la science économique ? La philosophie concrète utilisera sans doute dans une large mesure le matériel fourni par ces sciences, sans doute devra-t-elle refuser radicalement d'être tenue à l'écart de ces sciences, comme ce fut si longtemps le cas. L'idée d'un programme interdisciplinaire sous le chef d'une intégration philosophique se retrouve ainsi à plusieurs endroits, tout comme la nécessité de sortir les sciences sociales du modèle de ce que plus tard l'école de Francfort appellera la théorie traditionnelle, et là je cite encore la philosophie concrète. Les institutions sociales, les formes économiques, les structures politiques concourent à façonner ce qui advient dans l'existence et doivent être envisagées à partir de celle-ci. Si elles sont interrogées a priori en tant que choses sous le rapport de leur constitution, de leurs relations et des lois de leur développement, elles tomberont aussitôt dans une sphère où l'analyse, parce qu'elle se conforme à tort au modèle des sciences naturelles, sera tout à fait incapable de dégager leur sens. C'est sur la recommandation de Husserl, après avoir soutenu sa thèse d'habilitation, que Marcuse se rapproche de l'Institut de recherche en sciences sociales de Francfort, centre, comme vous le savez peut-être, centre de recherche d'obédience ouvertement marxiste, créé en 1923 sous le mécénat de Félix Weil et rattaché à l'université Goethe de Francfort, dont Marx Horkheimer avait pris la direction en 1930. Marcuse devient membre de l'IFS juste avant l'exil, fin 1933, et l'arrivée des membres à New York en 1934. La plupart aussi des travaux que Marcuse publie tout au long des années 30 dans la Zeitschrift für Sozialforschung, la revue de l'Institut, dont la publication continuera à être assurée durant l'exil, concerne principalement l'analyse du fascisme et de l'autorité. en rapport avec la marche du capitalisme et le passage du capitalisme monopoliste au capitalisme d'État. Sa préoccupation est celle d'une tentative de sauvetage des catégories et éléments progressistes et émancipateurs de la tradition bourgeoise, raison, culture, libéralisme, bonheur, tout en saisissant les tendances autoritaires et leur aboutissement dans la répression fasciste. La difficulté de ces analyses réside dans l'aspect dialectique du problème. Si certaines catégories de la philosophie ont une fonction idéologique de conservation de l'ordre bourgeois, il est nécessaire de considérer qu'elles offrent également un refuge pour certaines valeurs morales de l'émancipation, notamment lorsque le fascisme oppresse ces valeurs de l'émancipation. Cette position est partagée par les principaux autres membres de l'Institut, notamment Horkheimer, puis Adorno par la suite, et elle caractérise cette phase d'exil. Les études de l'école de Francfort s'attachent donc à l'appréhension interdisciplinaire des régimes d'autorité dans et hors des sociétés fascistes. Il convient de rappeler que si l'Institut était, dans ses premières années, sous la direction de Karl Grünberg, principalement orienté vers des études d'économie politique, lors du changement de direction et avec l'arrivée de philosophes et de sociologues, malgré un attachement toujours assez manifeste à la critique de l'économie politique, cette dernière ne représente plus qu'une discipline parmi d'autres à partir du début des années 30. C'est dans cet ensemble épistémologique que naît le projet de la théorie critique, dont la copaternité revient à Marcuse, on a tendance à l'oublier. Celle-ci naît à l'époque dans un contexte de réorganisation critique des disciplines des sciences sociales et notamment un redéploiement philosophique du marxisme qui se fonde en réaction à la théorie traditionnelle. Ainsi, tout en appuyant les marques spécifiques des deux approches du travail scientifique, la théorie traditionnelle étant caractérisée par une spécialisation accrue, un principe de déduction logico-mathématique, une appréhension de la science comme autonome par rapport au reste de la société et un désintéressement de la conscience du théoricien, et avec de l'autre côté la théorie critique qui se définirait à contrario par son objet, qui est la totalité historique, par son intégration dans un complexe social et historique, par sa solidarité de principe avec les processus d'émancipation par rapport à l'emprise du social, dont elle peut être finalement considérée comme le versant intellectuel, et l'aspect historique des catégories qu'elle travaille, c'est-à-dire qu'elle est post-métaphysique, et également aussi elle se caractérise par une critique, une incorporation, disons, des théories qu'elle critique. Donc voilà, en préparant un peu, en marquant les catégories, les différentes caractéristiques de ces deux types de théories traditionnelles et théories critiques, Horkheimer appuie le risque de réduire la théorie critique à l'économisme et à la croyance, je cite, que l'économie en tant que constituant l'être matériel est la seule vraie réalité, que la psyché humaine, la personnalité, tout comme le droit, l'art, la philosophie, sont à dériver de l'économie sans qu'il y ait de reste, qu'ils sont le pur reflet de l'économie. C'est là du Marx abstrait et par conséquent mal compris. Fin de citation. Si la critique de l'économie politique a pu être, dans ses développements antérieurs, le moyen de saisir la totalité sociale pour le marxisme, cette situation est dépassée par les conditions épistémologiques qui sont celles des années 30. L'épistémologie de la théorie critique est alors chez Horkheimer celle d'une philosophie sociale, d'une interdisciplinarité des sciences analytiques sous la houlette intégrante de la philosophie. Les positions de Marcuse dans sa propre contribution à la définition épistémologique de la théorie critique, c'est un article qui s'appelle « Philosophie et théorie critique » justement, sont analogues à celles du directeur de l'Institut et rejettent les tentatives d'appréhension de la société dans sa totalité dans une seule économie politique, quitte, chez Marcuse, à donner une importance prépondérante à la philosophie, à l'intérieur de l'histoire de laquelle la théorie critique marcusienne est entièrement placée. Importance qui sera pourtant ratifiée par Horkheimer dans l'appendice à son essai sur la théorie traditionnelle et théorie critique, qui constitue une réponse à l'apport marcusien au projet. Ainsi, voilà un extrait de Philosophie et théorie critique. Le contenu philosophique de la théorie est une forme de protestation contre le nouvel économisme, contre un isolement de la lutte économique, contre la séparation maintenue entre l'économique et le politique. Et finalement, vous avez ici presque une réponse d'Horkheimer. Outre l'héritage de l'idéalisme allemand, la théorie critique conserve celui de la philosophie tout entière. Elle n'est pas une quelconque hypothèse de recherche témoignant de son utilité dans le système établi, mais un facteur indissociable de l'effort historique pour créer un monde adéquat aux besoins et aux facultés de l'homme. Quelles que soient les influences réciproques qui s'exercent entre la théorie critique et les sciences spécialisées, dont elle doit constamment prendre en compte les progrès pour définir son orientation et qu'elle a depuis des décennies contribué à libérer et stimuler, elle ne vise jamais à simplement accroître, le savoir en tant que tel, mais à libérer l'homme des servitudes qui pèsent sur lui. Elle s'apparente en ce sens à la philosophie grecque, considérée moins dans sa période hellénistique de résignation que dans son apogée au temps de Platon et d'Aristote. La philosophie bourgeoise de l'histoire n'a pas tenu jusqu'au bout ses promesses d'émancipation. La tâche de la philosophie sociale est donc de reprendre le mouvement de cette dernière. Marcuse s'insère ainsi dans le programme de la théorie critique et s'en arroge en quelque sorte le rôle du philosophe, dans un projet interdisciplinaire qui s'approche grandement des propositions de ses premiers essais. Toutefois, ses positions, tout comme celles d'Horkheimer ainsi que d'autres penseurs en gravitation autour de l'Institut, et c'est bien là le point fondamental d'une théorie critique, sont révélatrices d'une situation historique où la possibilité de réconciliation de l'appréhension de l'unité de la théorie et de la praxis s'estompe. Le philosophe ne peut prendre part aux luttes sociales que dans la mesure où il n'est pas uniquement philosophe. Cette division du travail est aussi le résultat de la séparation moderne entre les moyens de production matérielle et intellectuelle. Ce n'est pas la philosophie qui peut abolir cette séparation. Les conditions d'existence sociale sont cause de ce que le travail philosophique a été et est encore essentiellement abstrait. La fidélité à l'abstraction dans la philosophie correspond mieux à l'état de fait et à la vérité que cette concrétude philosophique qui daigne se mêler d'en haut aux luttes sociales. La part de vérité contenue dans les concepts philosophiques a été conquise en faisant abstraction du statut concret de l'homme et n'est vraie que dans ces conditions. C'est donc finalement pour maintenir la vérité abstraite qui réside encore dans les concepts philosophiques et que les deux principaux contributeurs de l'épistémologie, enfin à l'épistémologie de la théorie critique, C'est donc pour maintenir la vérité absolue qui réside dans les concepts philosophiques que Horkheimer et Marcuse, en exil, embrassent finalement les caractères de ce que Perry Anderson appelle le Western Marxism et inscrivent même théoriquement l'éloignement de la réflexion théorique et de la stratégie politique dans le travail de la philosophie. Cette inscription sera accentuée avec l'arrivée d'Adorno au début des années 40 dans le cercle des penseurs principaux de l'Institut. Cette nouvelle décennie voit toutefois un rapprochement de Horkheimer et Adorno et le rapport commun de rectification finalement au projet de la théorie critique, ainsi que leur déménagement en Californie. Marcuse, de son côté, reste sur la côte Est au début des années 40, à Washington d'abord, où il travaille sur un programme antifasciste, puis à Boston, où il enseignera à l'université Brandeis. Et il n'atteindra la côte Ouest que bien après le retour de ses compagnons en Allemagne. Donc voilà, pour le projet de la théorie critique, le projet auquel Marcuse travaille dans les années 30, au début des années 30, de 33, mettons, au début des années 40, est un projet qui finalement prolonge, développe des institutions, des intuitions de ses premiers écrits. Il rectifie leur inspiration quelquefois un peu trop heideggerienne, ce dernier s'étant rallié à la cause nazie. Plusieurs textes de Marcuse seront consacrés à la coupure épistémologique d'avec l'ancien maître de Fribourg. Ils attestent également d'une situation historique déplorable de la philosophie et de la possibilité critique, d'une société organisée selon le principe de la raison qui culminera dans l'ouvrage que préparent Horkheimer et Adorno au début des années 40, La dialectique de la raison. Ce dernier ouvrage, tout en étant l'aboutissement des analyses de l'école de Francfort, représente en fait une crise et une rupture dans le programme de la théorie critique. Et on va voir maintenant les répercussions théoriques qu'elle a, enfin que ce type d'ouvrage a sur le travail de Marcuse. Ainsi donc, durant la décennie 1940, Marcuse centre son travail sur une interprétation d'abord politique de la pensée de Hegel, à l'opposé du premier travail qu'il avait fait lors de sa thèse d'habilitation, et qui d'ailleurs, selon Martin Jay, était caractérisé par, je cite, son indifférence pour l'essentiel envers les éléments critiques de la philosophie hegelienne et l'aboutissement dans une sorte de théodicité que, du reste, il n'essaye nullement de concilier avec ce marxisme qu'il défend ostensiblement dans les autres textes de la période 28-32. Là, Marcuse va pointer les éléments révolutionnaires de la pensée de Hegel que Marx a repris à son compte, montrant ainsi, à la suite de l'essai de 32 sur les manuscrits économico-philosophiques de Marx, que la pensée marxienne est un prolongement de la philosophie hegelienne, tout en étant bien sûr une critique et une négation de la philosophie. Il s'agit en fait de proposer un sauvetage de Hegel et de le défendre, et notamment de le défendre de ses interprétations irrationnelles, et notamment par certains théoriciens du fascisme, comme Sergio Panuccio, qui est un des théoriciens du fascisme et Mussolini. mais aussi tout en critiquant la philosophie positiviste, qui étudie les réalités sociales, je cite, « sur le modèle de la nature et au point de vue de la nécessité objective et la solidarité qui unit cette philosophie positiviste au positivisme moderne. » La philosophie de Hegel, pour Marcuse, contient des éléments critiques, annonciateurs de Marx, que la théorie critique doit conserver et intégrer, notamment le pouvoir de la négation et de la pensée négative, qui s'identifie pour Marcuse à l'essence même de la raison. Il ajoutera d'ailleurs une préface à ce propos, annonciatrice de l'homme unidimensionnel en 60, en interprétant « l'épuisement de la négation dialectique et l'anéantissement consubséquent de la faculté mentale de négation » comme intrinsèquement lié à l'effondrement et la progressive disparition des forces sociales susceptibles de l'incarner. Ainsi, l'ouvrage Raison et Révolution, est une affirmation des positions de la pensée philosophique de la théorie critique que Marcuse développe au début depuis les années 30. Ce sera le dernier grand travail de la seconde période de pensée de Marcuse aux États-Unis, son travail théorique étant interrompu par l'entrée en guerre des États-Unis. Il rejoindra donc, comme je le dis, une agence de renseignement sur la guerre et la propagande fasciste à laquelle il travaillera à partir du milieu des années 40. Alors qu'à partir de la dialectique de la raison, le programme de la théorie critique est sérieusement amendé par Horkheimer et Adorno, Marcuse tente de rester fidèle au projet politique de la théorie critique dans ses travaux d'après-guerre, à savoir l'intégration de la politique et de la philosophie. Un travail d'analyse de réponse à la crise du marxisme, notamment par la recherche des forces sociales radicales susceptibles de porter le changement, à une époque où le prolétariat, s'il constitue objectivement toujours la classe révolutionnaire, ne la constitue plus subjectivement, on va y revenir. Les deux ouvrages majeurs et les plus connus de Marcuse sont écrits dans cet environnement théorique, quelque peu pessimiste, et c'est en tant que tel qu'ils doivent être entendus. Ils sont souvent opposés l'un à l'autre, et disqualifiés dans la dichotomie qu'on crée entre eux, Eros d'un côté comme étant empreint d'un optimisme irréaliste, et de l'autre l'homme unidimensionnel comme étant à l'inverse enfermé dans un pessimisme irrépressible. Plutôt que de les opposer de la sorte, je vais essayer ici de présenter leur analyse et les jalons qu'ils essaient de poser dans une entreprise allant vers la libération. D'ailleurs, l'essai vers la libération qui leur fait suite présente à ce propos une synthèse éclairante. Eros et civilisation, c'est donc un des ouvrages majeurs de Marcuse. L'essentiel des ouvrages à sa suite reprendront souvent ou verront leurs orientations dérivées des éléments de réflexion de cet essai de 55, qui porte le sous-titre « Contribution à Freud ». Il est d'ailleurs, à mon avis, en effet, à considérer comme une contribution à Freud, de la même manière finalement que la critique marxienne pourrait être considérée comme une contribution à l'économie politique. Il faut bien comprendre, si on veut avoir une idée de ce que représente l'Eros civilisation de Marcuse, il faut bien comprendre le contexte théorique de l'émergence de l'essai, et notamment les polémiques avec Fromm sur la possibilité d'un freudomarxisme, et finalement les polémiques avec le révisionnisme néo-freudien. Fromm était un penseur pionnier du freudomarxisme. Il avait essayé dans les travaux des années 30, en rapport avec l'Institut de recherche en sciences sociales, de penser les rapports entre économie et psychologie. Et ce faisant, il avait rapproché la psychologie d'une sociologie en laissant à l'écart, comme l'essentiel des révisionnismes, les catégories les plus métaphysiques chez Freud. Or, justement, pour Marcuse, c'est à celle-là qu'il faut s'intéresser. C'est justement en conséquence à l'essai de Freud sur le malaise dans la civilisation, qui est généralement considéré comme le plus spéculatif, et à ce titre le moins rigoureux, que Marcuse s'intéresse pour fonder sa propre interprétation du freudomarxisme. La thèse de Freud est la suivante, grosso modo. La civilisation représente une nécessaire répression des instincts de l'homme et leur détournement vers des fins socialement utiles. C'est la soumission du principe de plaisir au principe de réalité. Le report de la satisfaction et la restriction du plaisir, forcée notamment par la pénurie, qui marque l'origine de la répression à la fois dans l'histoire individuelle, l'ontogénèse, et dans l'histoire de la civilisation, phylogénèse. Le point central de la critique marcusienne réside dans le manque de conscience historique des catégories freudiennes. La civilisation que décrit Freud ne devrait pas être pensée comme éternelle et universelle. Elle ne doit pas être ontologisée. si des conditions historiques de la rareté des ressources ont conduit à l'organisation civilisationnelle de la répression, les progrès de la technique dans les sociétés modernes devraient conduire à une réduction conséquente de l'antagonisme entre principe de réalité et principe de plaisir. Les ressources disponibles, je cite Marcuse, rendent possible un changement qualitatif des besoins humains. La rationalisation et la mécanisation du travail tendent à diminuer la quantité d'énergie instinctuelle canalisée vers le labeur, travail aliéné, libérant ainsi de l'énergie pour la réalisation des objectifs fixés par le jeu libre des facultés individuelles. S'il n'en est rien, c'est pour Marcuse que le principe de réalité des sociétés industrielles avancées, et il considère à ce titre autant la société capitaliste américaine que l'économie planifiée soviétique, a pris la forme du principe de rendement. Donc principe de réalité des sociétés modernes, c'est le principe de rendement. C'est-à-dire que la modification nécessaire des instincts et pulsions de l'individu dans la société moderne n'est plus uniquement celle nécessaire à la survie de l'espèce, et dictée du coup directement par la pénurie. Il y a un écart de surrépression, comparable finalement à la catégorie de surtravail dans l'économie, dans la critique marxienne de l'économie politique. Ça va, surtravail ? Pour ceux qui n'auraient pas tout à fait en tête leur cours d'économie politique sur la plus-value, en fait, Marx pense que, en fait, l'organisation du travail, disons, dans le mode de production capitaliste, voit le temps de travail de l'ouvrier composé à la fois du travail nécessaire et du surtravail. Le premier équivaut à ce pourquoi il est payé, et finalement c'est sur le surtravail que le capitalisme peut créer de la plus-value. Donc voilà, c'est un peu pareil pour Marcuse. Finalement, il y a une répression nécessaire, mais une surrépression qui est justement directement exploitée par l'organisation civilisationnelle de la pénurie. Ainsi, si les hommes des sociétés industrielles avancées, si l'homme des sociétés industrielles avancées doit toujours renoncer à la satisfaction immédiate et sublimer ses instincts libidineux vers des fins socialement utiles, et il peut faire quotidiennement l'expérience de cette nécessité, ce n'est pas, comme cette expérience semble le suggérer, à cause de la pénurie, mais bien plutôt de l'organisation de la pénurie dans des buts de domination. La pénurie dominante, vous dit Marcuse, dans toutes les civilisations, bien que sous des modes très différents, a été organisée de telle manière que le produit social ne soit pas distribué collectivement en fonction de besoins individuels, pas plus que la production de denrées nécessaires à la satisfaction des besoins n'a été organisée en vue de mieux satisfaire les besoins croissants des individus. Au lieu de cela, la répartition de la pénurie ainsi que l'effort pour la dépasser ont été imposés aux individus, d'abord par la violence, plus tard par l'utilisation plus rationnelle du pouvoir. Cependant, quelle fut-il qu'ait été cette rationalité pour les progrès de l'ensemble, elle a toujours été la rationalité de la domination, et la victoire progressive sur la pénurie fut inextricablement liée à l'intérêt de la domination et dirigée par elle. Aussi, si la civilisation n'est pas concevable sans un minimum de répression, que Marcuse atteste, il y a une répression fondamentale qui est nécessaire à la constitution de l'espèce ainsi qu'au développement de conditions matérielles d'existence convenables, et enfin pour assurer la pérennité et la reproduction de la civilisation. La surrépression, cependant, est un abus de cette répression fondamentale, ayant pour finalité le contrôle des sujets dans la société administrée. Elle s'incarne dans l'administration de la vie sociale et ses institutions, à travers, par exemple, ce qu'ailleurs Horkheimer et Adorno appellent l'industrie culturelle, qui produit dans le loisir des formes de contrôle social. Cette domination, qui a conquis tous les aspects de la vie sociale, Marcuse la considère comme une conséquence de la dialectique de la civilisation, et je cite, en réponse finalement en termes psychologiques à la dialectique de la raison. On constate d'ailleurs une réponse à la dialectique de la raison dans le passage suivant. En même temps que la rationalité scientifique de la civilisation occidentale a commencé à porter tous ses fruits, elle est devenue de plus en plus consciente de ses implications psychiques. Le moi qui entreprenait la transformation rationnelle du milieu humain et naturel se révélait comme un sujet essentiellement agressif, offensif, dont les pensées et les actions étaient destinées à maîtriser les objets. C'est un sujet contre un objet. Cette expérience antagonique a priori définissait aussi bien le moi pensant que le moi agissant. La nature, sa propre nature aussi bien que le monde extérieur, était donné au moi comme quelque chose qui doit être combattu, vaincu et même violé. Telle était la condition préalable de l'autoconservation et du développement individuel. Et autant ce passage répond à la dialectique de la raison, autant on peut voir également que l'extrait suivant des fragments philosophiques de la dialectique de la raison préfigure très clairement l'éros. L'humanité, dont l'adresse et la connaissance se sont affinées grâce à la division du travail, est en même temps ramenée de force à des niveaux anthropologiques plus primitifs, car dans une existence facilitée par la technique, la persistance de la domination conditionne le blocage des instincts par une oppression accrue. Alors même, finalement, que la raison contient en elle l'espoir de l'émancipation et de la réalisation humaine par une domination toujours plus effective et efficace de la nature, elle a, au cours du processus, interverti les moyens et les fins. Les instincts, évidemment, que la domination finit par bloquer, sont pour Marcuse, notamment et en premier, les instincts sexuels. La société administrée poursuit ainsi une répression de l'activité sexuelle qui va du maintien des tabous associés aux actes qui ne servent pas à la reproduction jusqu'à l'amplification de la désérotisation, pardon. C'est un lapsus, hein. La désérotisation de certaines parties du corps pour limiter les plaisirs du corps aux seules zones génitales. Cette désérotisation prend d'ailleurs souvent, dans les sociétés industrielles avancées, la forme de la désublimation répressive, c'est-à-dire d'une, je cite, « libération de la sexualité dans les modes et sous les formes qui diminuent et affaiblissent l'énergie érotique », c'est-à-dire d'une certaine manière l'application du principe de l'industrie culturelle à la sexualité. Ainsi, à l'inverse d'une critique injuste qu'on adresse assez souvent à Marcuse, quand on l'a pas lu, sa réflexion a évidemment bien conscience de la possibilité de l'utilisation des images de l'érotisme pour les fins du principe de rendement, et saisit bien sûr toute la difficulté dès lors d'une possible marche vers l'émancipation. L'illustration la plus parlante de ce fait est fournie par l'introduction méthodique d'éléments sexy dans les affaires, la politique, la publicité, la propagande, etc. Dans la mesure où la sexualité obtient une valeur marchande définie, ou dans la mesure où elle devient le signe du prestige et du fait que l'on joue suivant les règles du jeu, elle se transforme en instrument de cohésion sociale. En insistant sur cette tendance bien connue, on peut mettre en évidence la profondeur du gouffre qui sépare les possibilités de libération de l'état de choses actuel. La société industrielle avancée, qui assure donc techniquement la répression en retournant contre les individus les procédés qui devaient concourir à leur propre émancipation, prive ces derniers d'un accomplissement véritable de leur sexualité, privation de laquelle naissent les perversions, du moins dans lesquelles elles se multiplient et s'amplifient. Donc ils les privent d'un accomplissement de leur sexualité pour réexploiter cette sexualité finalement commercialement en vendant dans la désublimation répressive l'image d'une promesse de réalisation qui n'est jamais tenue mais dont la poursuite fait partie des mécanismes répressifs d'intégration sociale. Cet état de fait est pour Marcuse inscrit dans le principe même de la technologie en tant que processus dans lequel le logos de la raison qui se présente désormais comme logique de la domination est devenu techno. Alors donc que la technique pouvait, dans les étapes antérieures de la réflexion marxiste, jouir d'un certain bénéfice du doute quant à sa soi-disant neutralité, ce n'est pour Marcuse désormais plus possible. Le concept de raison technique relève peut-être lui-même de l'idéologie. Avant même d'être utilisée, la technique est une domination sur la nature et sur l'homme, domination méthodique, scientifique, calculée et calculante. Les buts et les intérêts du système de domination ne sont pas octroyés à la technique après coup et de l'extérieur. Ils font déjà partie de l'appareil technique au moment de sa construction. La technique est à chaque fois un projet historique et social, et ce projet reflète les intentions que nourrissent une société et les intérêts qui la dominent sur les hommes et les choses. CS, c'est culture et société, en fait, c'est un rassemblement de textes à plusieurs périodes de la pensée de Marcuse, et ça, c'est extrait d'un article de 64, je crois, sur Marx Weber. Donc voilà, cette réorientation finalement de la réflexion sur la technique, évidemment, sera au centre du développement de son second ouvrage sur la société unidimensionnelle. L'analyse de la situation du rapport entre individus et société qui est au cœur de l'éros est reprise par Marcuse dans L'homme unidimensionnel en 64, traduction française 68. Cet ouvrage est une sorte de point culminant, finalement, aboutissement, synthèse d'un ensemble de travaux antérieurs, des analyses aussi de la philosophie de Hegel, de Marx, de Lukács, et aussi une synthèse des positions d'autres membres de l'Institut comme Horkheimer et Adorno.
quelle année ?
64. La problématique qui est centrale à l'ouvrage et qui est commune à l'essentiel des écrits de Marcuse par la suite est la suivante. Dans quelle mesure la raison porte-t-elle encore l'espoir de la liberté et de l'émancipation ? Ici encore, on retrouve le diagnostic de la dialectique de la raison, selon le diagnostic selon lequel la raison porte en elle-même à la fois d'un côté l'émancipation et la promesse de liberté et de réalisation, et de l'autre la domination et l'aliénation. Le point majeur qu'il semble nécessaire d'appuyer à ce propos et à propos de cet ouvrage, c'est celui de la possibilité même d'une pensée critique. Est-ce que la pensée critique est possible dans la société unidimensionnelle finalement ? En tant que théoricien critique de la société contemporaine, Marcuse s'attribue la fonction d'examiner des alternatives historiques aux développements sociaux et sociétaux les plus récents. Mais cette possibilité, qui est celle d'une émancipation par la raison, et même le simple fait de l'envisager, se heurte désormais dans les sociétés industrielles avancées au problème de l'unidimensionnalité. Il est bien connu que la philosophie marxiste, dans la suite de la dialectique hegélienne, accorde une position fondamentale à la question de la contradiction. Cette dernière, portée par le prolétariat comme négation de l'ordre bourgeois, est au centre des processus menant à l'effondrement du capitalisme, qui est lui-même miné par ces contradictions. Donc centrale, et au central aussi à la constitution de la société socialiste, pardon, sur la base de nouveaux rapports économiques qui ne seraient pas fondés sur la propriété privée. Propriété privée des moyens de production. Or, la société américaine des années 60 qu'analyse Marcuse, si elle n'est pas moins injuste que la société bourgeoise traditionnelle découpée en classes qui a vu naître le marxisme, a pourtant réussi à intégrer les classes populaires à leur propre exploitation et à leur propre domination, processus dont elle semble désormais elle-même actrice. Avec le phénomène de la montée des white collars, des cols blancs, qu'analyse Charles Wright Mills en 50 ou 51. Donc voilà, avec la montée des classes moyennes, finalement, les travailleurs mieux payés s'éloignent de l'état de paupérisation que prophétisait Marx et qui était un facteur important de la révolution. Ils sont désormais intéressés au rouage du système et de sa reproduction et se voient offrir du temps de loisir. Finalement, ils s'éloignent progressivement de la situation paradigmatique du prolétariat. J'ai essayé de montrer dans mon livre que la neutralisation ou l'absorption des forces réalisatrices qui s'opèrent dans les domaines techniquement les plus développés du capitalisme n'est pas seulement un phénomène de surface, mais naît du processus de production lui-même sans modifier sa structure fondamentalement capitaliste. La société existante parviendra à endiguer les forces révolutionnaires aussi longtemps qu'elle réussira à produire toujours plus de beurre et des canons et à berner la population à l'aide des nouvelles formes du contrôle total. La puissance technologique des sociétés industrielles du capitalisme avancé, et là encore, ça comprend aussi l'économie planifiée soviétique avec laquelle finalement elle est dans une course de ce point de vue et donc ne représente pas une véritable alternative. Cette puissance technologique, tout en assurant et perpétuant une domination et une répression sans précédent, assure également que cette domination se fait sans terreur, hors de la nécessaire violence physique qu'il assumait précédemment. Et ainsi, elle modifie la classe travailleuse et octroie en échange et en récompense une qualité de vie meilleure que celle qu'on rencontre dans les sociétés à un stade de développement antérieur. Elle change ainsi la classe laborieuse dans sa conscience. L'augmentation du niveau de vie de larges franges de l'ancien prolétariat cesse de le reléguer à l'extérieur du système. Il n'a plus intérêt au renversement du mode de production, en tout cas il n'a pas l'impression d'avoir intérêt au renversement du mode de production dont il finit par tirer finalement une partie des bénéfices. Ses syndicats d'ailleurs sont occupés désormais davantage à la préparation de son intégration toujours plus importante par la réclamation d'augmentation toujours plus nette des avantages, plutôt que d'assurer la transformation de la société. Les capacités intellectuelles et matérielles de la société contemporaine sont infiniment plus grandes que jamais, ce qui signifie que la domination de la société sur l'individu est infiniment plus grande que jamais. L'originalité de notre société réside dans l'utilisation de la technologie plutôt que de la terreur pour obtenir la cohésion des forces sociales, dans un mouvement double, un fonctionnalisme écrasant et une amélioration croissante du standard de fait. La qualité de vie augmente, mais la rationalité qui la fait augmenter est la même que celle qui réprime toute possibilité d'envisager des alternatives et, je cite, « intègre toutes les dimensions de l'existence, en un modèle que Marcuse appelle société close, à tel point que le fait même d'imaginer ces alternatives s'éloigne. La répression s'exerce ainsi dans la pensée, en gagnant le langage. Marcuse donne l'exemple du langage publicitaire, hein, où la parole est un déplacement de synonymes et de tautologies, langage publicitaire dont les concepts immunisés contre la contradiction finissent par ressembler au langage orwellien. Mais en touchant le langage, notamment le langage philosophique, il touche aussi le langage. En touchant le langage publicitaire, il finit par toucher le langage philosophique, dont les concepts perdent leur vérité en éradiquant leur dimension négative et finissent par se restreindre d'une façon presque masochiste aux termes simples et courants. Marcuse analyse notamment la philosophie de Wittgenstein. La pensée, ou du moins son expression, est prisonnière de l'usage courant. Elle est engagée à ne pas attendre, à ne pas rechercher des solutions qui seraient situées au-delà de celles qui existent. Il cite Wittgenstein, hein, « Ce n'est pas en donnant une information nouvelle qu'on résout les problèmes, c'est en mettant de l'ordre dans ce que nous connaissons depuis toujours. Cette philosophie qui s'appauvrit par elle-même a engagé tous ses concepts dans l'état de choses données et met en doute le fait qu'il y ait une nouvelle expérience possible. » À travers ces mystifications du langage qui s'éloignent de l'expérience en donnant pour autant l'impression qu'il en est rempli, c'est finalement la possibilité d'émission d'un jugement normatif qui s'éloigne. Tout ce qui entrerait en contradiction est en fait intégré négativement et tombe dans le domaine de l'utopie. Donc voilà, pour les travaux des années 50 et 60, finalement, on s'aperçoit que c'est chez Marcuse sa propre exposition des conséquences de la dialectique de la raison. Si la dialectique de la raison, finalement, analyse ce problème-là au niveau philosophique, l'éros l'analyse de son côté au niveau psychanalytique, disons, et l'homme unidimensionnel davantage au niveau sociologique. Comme ses camarades de l'Institut, Marcuse fait l'expérience problématique de la perte du destinataire de la théorie critique et de la difficulté de déterminer les forces objectives de changement. Et c'est finalement dans déjà un peu dans l'éros et dans l'homme unidimensionnel, mais finalement la recherche des agents de changement sera l'essentiel de son travail jusqu'à la fin de sa vie. Comme on sait, d'ailleurs au passage, les analyses marcusiennes auront un certain retentissement dans les sociétés avancées. Et si on ne peut pas dire que le philosophe a à proprement parler provoqué les révoltes de la fin des années 60, il leur a néanmoins fourni une assise philosophique. Des leaders de la Ligue des étudiants socialistes allemandes, comme Rudi Dutschke à Berlin ou Hans-Jürgen Krall, se sont revendiqués de la pensée de Marcuse, hein. Ils le citent dans plusieurs papiers qu'ils écrivent, que ce soit séparément ou ensemble, au moment de la révolte des étudiants. La suite, finalement, de l'histoire de la pensée marcusienne sera émaillée, en réalité, de la recherche théorique de sortie de cette crise, qu'on peut qualifier de crise de la possibilité d'une théorie critique. Que Douglas Kellner appelle ça carrément la crise du marxisme. Cette recherche et les propositions sur lesquelles elle ouvrira prendront à la fois la forme d'ouvrages et articles, mais aussi, et surtout peut-être, de dialogues, notamment avec des philosophes comme Lucien Goldman, aussi avec des sociologues comme Marcel Rioux, ou des économistes comme François Perron. Bien sûr également, cette recherche s'actualise et prend la forme de conférences nombreuses et de séminaires dans des universités auprès des milieux étudiants et féministes, finalement auprès des différents agents de changement qu'il va entrevoir, et dans une tentative à laquelle il reste fidèle depuis ses tout premiers travaux de définition d'une philosophie concrète, publique, et d'un philosophe qui, sans pour autant prendre part directement à la critique sociale, en exacerbe toutefois l'agitation, tout en en analysant la direction, en la mettant en rapport avec ses conditions historiques. À cet égard, un ouvrage comme « La fin de l'utopie » 67 est exemplaire. Il rassemble à la fois des articles et des conférences, des débats accompagnés des retranscriptions de toutes les périodes de discussion qui les suivent. À la différence notable d'ailleurs des autres membres de l'école de Francfort, et notamment d'Adorno, qui s'en défendra jusqu'à sa mort et à qui ça a été reproché, ou même Jürgen Habermas, qui ira même jusqu'à assimiler les actions radicales de la gauche à du, je cite, « fascisme de gauche », Marcuse, lui, affirme sa solidarité. Pardon. Ah, les Floyd, c'est bien, moi.
Et voilà, c'était une pause.
Maman. Excusez-moi. Pardon. Donc oui, à la différence de Adorno ou de Habermas, Marcuse affirme sa solidarité et son soutien ferme au bouillonnement contestataire de la fin des années 60. Il regrette d'ailleurs les positions de ses anciens collègues, et on le voit dans plusieurs lettres. Sans se leurrer pour autant sur le caractère, si vous voulez, non révolutionnaire, ni même peut-être pré-révolutionnaire d'une situation marquée par les révoltes étudiantes, il considère néanmoins celle-ci comme s'insérant dans un chemin vers l'émancipation, là où Adorno voit une pseudo-révolution basée sur une pseudo-activité régressive, une praxis qui se prend d'autant plus au sérieux et se ferme d'autant plus résolument à la théorie et à la connaissance qu'elle perd le contact avec l'objet et le sens des proportions. Là où donc, finalement, un certain repli dans la théorie caractérise l'Adorno tardif, et dont la dialectique négative est en quelque sorte l'expression, même si ce repli ne doit pas être considéré pour autant comme une résignation, et il s'en explique dans un de ses derniers textes. Marcuse, lui, se pose la tâche de toujours chercher des alternatives, tout en essayant de maintenir l'exigence d'une pensée dialectique. L'homme unidimensionnel, à ce propos, se conclut quand même sur une note assez pessimiste, en faisant intervenir la catégorie de grand refus, pour indiquer finalement la limite d'une possibilité de contestation dans la société industrielle avancée. Les classes populaires étant tombées dans la réaction, Marcuse voit la contradiction portée désormais peut-être par des outsiders, que l'intégration a pour le moment laissé de côté. Au-dessous des classes populaires conservatrices, il y a le substrat des parias et des outsiders, les autres races, les autres couleurs, les classes exploitées, persécutées, les chômeurs et ceux qu'on ne peut pas employer. Ils se situent à l'extérieur du processus démocratique. Leur vie exprime le besoin le plus immédiat et le plus réel de mettre fin aux conditions et aux institutions intolérable. Ainsi, leur opposition est révolutionnaire, même si leur conscience ne l'est pas. Leur opposition frappe le système de l'extérieur, et de ce fait, le système ne peut pas l'intégrer. C'est une force élémentaire qui viole les règles du jeu, et, en agissant ainsi, elle montre que c'est un jeu faussé. Quand ils s'assemblent, quand ils marchent dans les rues, sans armes, sans protection, pour réclamer des droits civils les plus élémentaires, ils savent qu'ils s'exposent aux chiens, aux pierres, aux bombes, à la prison, aux camps de concentration et même à la mort. Leur puissance est derrière toute manifestation en faveur des victimes de la loi et de l'ordre. Le fait qu'ils ne veulent plus jouer le jeu est peut-être un fait qui marque la fin d'une période et le début d'une autre. Pour autant, et c'est là le pessimisme de la fin de l'homme unidimensionnel, Marcuse ne peut que tirer la leçon de tout l'ouvrage, c'est-à-dire des 279 pages qui précèdent celle-là, et ainsi ne peut que tempérer immédiatement l'espoir que portent ces sujets pour l'avènement d'une société autre. Il n'y a pas de raison que les sociétés industrielles avancées ne finissent par intégrer d'une manière ou d'une autre ces outsiders à leur système, comme elles l'ont fait des classes laborieuses, se préservant de leur force de contradiction en les arrimant à leur contrôle. Rien ne prouve en effet que ce serait une bonne fin. Les sociétés établies ont des ressources économiques et techniques telles qu'elles peuvent se permettre des conciliations et faire des concessions aux misérables. Elles ont des forces armées assez bien entraînées pour faire face aux situations d'urgence. Le problème en fait qui mine la recherche des sujets susceptibles de porter le changement vient du fait que le marxisme, qui pense l'action de ces sujets, est en fait prisonnière d'une vision quantitative du développement des forces productives et de l'histoire des progrès de la technique, tout comme finalement la société unidimensionnelle contre laquelle le marxisme s'inscrit. Fidèle à son ancrage dans la tradition d'une théorie critique de la société et de l'histoire, Marcuse va proposer d'interroger la résonance contemporaine des thèses marxistes qu'il convient finalement d'historiciser, ou dont il convient d'historiciser certains concepts qui correspondent probablement à un niveau de développement des forces de production qui est, à ce moment-là, dépassé. Pas plus que la théorie critique, la pratique politique ne peut se fonder sur une conception de la révolution qui date du XIXe siècle, ou du début du XXe siècle, et qui n'est plus valable aujourd'hui, si ce n'est dans une grande partie du tiers-monde. Ainsi, les essais et travaux de Marcuse sont une critique et une suite de corrections à apporter au marxisme, dans le but de poursuivre le projet même de ce dernier. À cet égard, l'ouvrage sur la fin de l'utopie, donc 67, et l'article directeur qui lui donne son nom, ainsi qu'un essai un peu plus tard qui s'appelle Vers la libération, 69, tirent les conséquences des analyses des années 50 et 60. La révolution ne peut plus reposer sur les termes paradigmatiques de la lutte des classes, mais, je cite, « l'impossibilité de définir une classe révolutionnaire dans les pays capitalistes avancés ne signifie pas que le marxisme soit devenu une utopie. Pourquoi ? Parce que les contradictions internes au système restent fortes. Mais si ces contradictions sont également présentes dans les systèmes comme le marxisme soviétique, qui ne représente plus une véritable alternative, c'est en fait une définition du concept de socialisme même qui est en jeu, et notamment de société socialiste. C'est-à-dire qu'il est probable que le socialisme tel qu'il a été pensé jusqu'alors, et en termes essentiellement quantitatifs, ne suffise plus. À la fin des années 60, c'est donc de la définition d'un changement de paradigme que la pensée marcusienne s'occupe, et d'une redéfinition de la fonction critique des besoins et de la subjectivité dans le marxisme, finalement, d'un passage du plan quantitatif au plan qualitatif. La conception classique du capital est partie intégrante de la thèse fondamentale de Marx, selon laquelle le développement sans entrave des forces productives est le préalable et l'amorce du socialisme. Cette proposition subordonne la liberté à la productivité, à une productivité en croissance constante. La liberté et le degré accessible de liberté, le niveau de liberté et son extension, dépendent du degré de productivité, du niveau atteint par le développement des forces productives. Mais quelle est la nature, quel est le mode, quelle est la direction de ce développement des forces productives ? Le problème ne se pose pas, ou du moins ne semble pas se poser, tant que dominent la rareté et la pauvreté. Leur abolition est le but primordial. C'est ensuite que les réalisations du progrès technique prennent un autre tour. La période unidimensionnelle caractérise ce moment de l'histoire où l'utopie marxienne de développement des forces de production est atteinte. On ne peut plus, d'ailleurs, parler de cette dernière comme utopie dans la mesure où son projet de transformation sociale ne contredit pas ou plus des lois scientifiques qui sont réellement constatées ou constatables. Ainsi, finalement, que l'indique Gérard Rollet dans son travail sur, dans la présentation qu'il fait de la fin de l'utopie, l'essai montre que, je cite, « l'histoire antérieure est achevée, que les forces productives ont atteint un niveau de développement tel qu'on peut parler de réalisation totale du mode de production capitaliste. Dès lors, il faut en un certain sens sortir de l'histoire, c'est-à-dire sortir de la totalité achevée de ce mode de production par un bond qualitatif qui quitte l'axe horizontal de l'histoire. Il s'agit en fait d'activer la libération d'une nouvelle dimension biologique de l'existence humaine, la transformation des besoins qui est représentée dans ce que Marcuse appelle la nouvelle sensibilité, qui est d'ordre esthétique, sensibilité esthétique. Ce dernier terme étant compris, esthétique, non comme renvoyant uniquement à ce qui relève de l'art, qui serait la seule forme matérielle de l'esthétique, mais dans sa signification plus large de ce qui relève des sens dans l'accès des individus au monde. Alors que dans le système de production des sociétés répressives, la répression est reproduite dans les besoins mêmes des individus, il faut sortir de la répression par la transformation des besoins. Cette idée sous-entend que les besoins ont un caractère historique, nous dit Marcuse dans La fin de l'utopie. Au-delà de l'animalité, tous les besoins humains, y compris la sexualité, sont conditionnés historiquement et modifiables historiquement. La rupture avec la continuité des besoins qui contiennent déjà en eux-mêmes la répression et le saut dans la différence qualitative ne sont pas de la fiction, ils sont impliqués dans le développement des forces de production. Ce développement des forces productives a atteint aujourd'hui un niveau qui exige l'éveil de nouveaux besoins vitaux pour qu'elles soient à la hauteur de leurs propres possibilités. Cette sortie de la totalité achevée voit ses facteurs objectifs de réalisation disponibles, je cite Marcuse toujours, « toutes les forces matérielles et intellectuelles qui peuvent contribuer à une société libre sont en effet présentes, notamment dans la mesure où il n'est pas nécessaire de sortir au-delà de la base matérielle de la société. La technicisation, l'automation des processus de travail et la réduction conséquente de la pénibilité du travail physique sont des socles sur lesquels ce saut qualitatif doit s'appuyer. Il convient désormais d'identifier des forces subjectives. » Et de fait, un souci constant de Marcuse depuis l'homme unidimensionnel a été de chercher ces sujets susceptibles de porter la révolution. La conclusion vers laquelle tendent les écrits de la fin des années 60 et des années 70 est la suivante. Les facteurs objectifs du changement se sont désolidarisés des facteurs subjectifs. Une classe ou un type d'individu, une communauté, ne peut plus incarner seul les deux faces, objectives et subjectives, de l'émancipation. Si les facteurs objectifs sont toujours représentés par le prolétariat, qui, bien qu'objectif, objectivement en soi, constitue toujours la classe révolutionnaire, ce sont désormais les outsiders, la jeunesse étudiante, la population des ghettos, les noirs, les femmes, les homosexuels, en ce qu'ils sont une force de contradiction qui naît pour autant à l'intérieur du système, qui vont eux incarner les facteurs subjectifs. L'opposition qui est la leur est une opposition qui traduit à l'intérieur des situations de production présentes des formes d'expression des nouveaux besoins, même si cette opposition souffre du non-ralliement des forces objectives du changement historique. Très différente des révolutions qui ont eu lieu à des stades antérieurs, cette opposition, hein, celle des noirs, des homosexuels, des femmes, des jeunes, etc., s'attaque à l'ensemble d'une société prospère et qui fonctionne bien, dit Marcus dans Vers la Libération. Protestant contre sa forme, l'opposition conteste la forme marchande qui est imposée aux hommes et aux choses et les fausses valeurs, la fausse moralité de cette société. Du fait de cette conscience nouvelle et de cette révolte instinctuelle, une telle opposition est coupée des masses et de la majorité des organisations ouvrières qui sont intégrées à la société. Elle tente à concentrer toute l'action politique radicale dans des minorités actives, essentiellement issues de la jeune intelligentsia des classes moyennes et de la population des ghettos. Indépendamment de toute stratégie et de toute organisation politique, la libération devient un besoin vital, biologique. C'est dans cette perspective que Marcus s'intéresse, par exemple, au mouvement féministe, mouvement de libération des femmes. Il le fait notamment dans une conférence de 1974 titrée « Marxisme et féministe », et qui est prononcée au Centre de recherche féminine, de l'Université de Stanford, qui est, je crois, connu pour être le premier institut de recherche interdisciplinaire sur le sujet. Si le mouvement de libération des femmes opère à un premier niveau absolument nécessaire du, je cite, « combat pour la pleine égalité économique, sociale et culturelle » entre les hommes et les femmes, il ne s'y limite pas et porte justement en lui un aspect de formulation et de libération des nouveaux besoins. Les potentialités, les buts même du mouvement de libération des femmes vont bien au-delà de cette première étape qui est le combat pour la pleine égalité économique, à savoir qu'il touche à des domaines qui ne pourront jamais être atteints dans le cadre du capitalisme, ni dans le cadre d'aucune société de classe. L'accomplissement de ces objectifs nécessiterait une seconde étape où le mouvement transcenderait le cadre dans lequel il fonctionne à l'heure actuelle. À cette étape, au-delà de l'égalité, la libération implique la construction d'une société dans laquelle la dichotomie actuelle masculin-féminin serait dépassée dans les relations sociales et individuelles et les êtres humains. Ainsi, le mouvement porte en lui l'image non seulement d'institutions sociales nouvelles, mais aussi d'un changement de conscience, d'une transformation des besoins instinctuels des hommes et des femmes libérés des contraintes de la domination et de l'exploitation. C'est ainsi ce second élan du mouvement féministe qui intéresse particulièrement Marcus en ce qu'il prépare le bond qualitatif, en diguant par avance la possibilité autrement très probable de discrimination et violente faite aux femmes, même dans une société socialiste. Ainsi, en tant que force d'opposition, le mouvement de libération des femmes représente une vision du socialisme, mais qui serait à considérer comme l'avènement d'une société qualitativement différente, à même d'incarner, je cite, l'antithèse, la négation historique des besoins et des valeurs destructives et répressives du capitalisme, comme forme de culture dominée par le mal. Les caractéristiques spécifiques qui ont été historiquement attribuées aux femmes, et ainsi considérées comme spécifiquement féminines, et qui faisaient partie des facultés reléguées dans le domaine de l'imaginaire, de l'utopique, en un mot du non-essentiel quant à la marche de la société et du progrès, sont ainsi le support à partir duquel le changement qualitatif pour sortir de justement cette dictature de l'essentiel quant à la marche du progrès est à considérer. Parce que moi j'ai perdu ma phrase. Les caractéristiques spécifiques qui ont été historiquement attribuées aux femmes sont le support à partir duquel justement le changement qualitatif peut sortir de la dictature de l'essentiel quant à la marche du progrès et considérer la possibilité d'une société plus ouverte. Peut-être plus clair chez Marcus. Dans ce contexte, la libération des femmes apparaîtrait comme l'antithèse du principe de rendement et comme la fonction révolutionnaire de la femme dans la reconstruction de la société. Loin de favoriser la soumission et la faiblesse, les caractéristiques féminines mobiliseraient l'énergie agressive en la dirigeant contre la domination et l'exploitation. Elles apparaîtraient comme des exigences et des buts éventuels de l'organisation socialiste dans la production, dans la division sociale du travail, dans la définition des priorités sociales, politiques, culturelles, une fois la pauvreté vaincue. Et elles cesseront, ces caractéristiques, d'être spécifiquement féminines quand elles feront partie intégrante de l'infrastructure de la société dans son ensemble, aussi bien sur le plan matériel qu'intellectuel. Le principe pourrait bien évidemment s'étendre aux autres forces sociales d'opposition chez Marcus. Finalement, le saut qualitatif vers une transformation radicale des valeurs et des besoins se prépare à partir de la position subjective des outsiders, et leur position subjective de contradiction. Évidemment, cette réorientation de la théorie critique de la société dans la direction d'un axe qualitatif du progrès nécessite enfin une réactualisation de la réflexion sur la fonction critique de l'art. Je vais donc finir en brossant un portrait rapide de la question de l'art chez Marcuse, si on me donne quelques minutes nécessaires. Oui. Super. Je vais essayer de faire un peu vite. Pardon ?
Il y avait déjà pris.
Oui, c'est vrai. Alors, comme ses camarades, hein, Benjamin, Léo Leventhal et surtout, évidemment, Théodore Adorno, l'art a une position centrale dans le travail de Marcuse, et comme Adorno notamment, c'est sur une réflexion de théorie esthétique que s'achève son œuvre, avec un ouvrage qui s'appelle « La dimension esthétique » en 77, traduction française 79. Et d'ailleurs, la réflexion de Marcuse est très proche, hein, quant à la question de l'art, de celle que développe le camarade Wiesengrund. L'art a, pour ses penseurs, ce caractère qu'il retrouve aussi dans la pensée dialectique qu'ils défendent, à savoir la tentative commune de briser le pouvoir que les faits ont sur le monde et de parler un langage qui ne soit pas le langage de ceux qui établissent les faits, les invoquent sans cesse et en profitent. Et comme l'empire de ces faits tend à devenir totalitaire, à absorber toute opposition et à monopoliser l'univers entier du discours, l'effort pour parler le langage de la contradiction apparaît de plus en plus irrationnel, obscur, artificiel. C'est exactement le problème qui se pose à la pensée dialectique dans la société unidimensionnelle. Elle semble reléguée au domaine des spéculations. L'art est à la fois une force d'affirmation, de célébration de la société, tout comme il est sa négation. Son histoire, explique Marcuse à plusieurs reprises, peut être comprise comme l'harmonisation de cet antagonisme. À son propos toutefois, ce qui est régulièrement noté dans les études sur l'œuvre de Marcuse, c'est l'ambiguïté de la position du philosophe qui a tendance, selon les textes, à hypertrophier une dimension au détriment d'une autre. Dans Héros et civilisation, c'est la fonction subjective qui est célébrée. L'imaginaire est la seule force qui résiste à l'égard du principe de réalité. Dans L'homme unidimensionnel, à l'inverse, c'est sa fonction de conservation qui est accentuée et son intégration au monde de la réalité unidimensionnelle. Dans Vers la libération, dont je parlais à l'instant, c'est à nouveau sa grande force dans la détermination et la création des nouveaux besoins qui est appuyée. La dimension esthétique a une place, par exemple, prépondérante dans le bond qualitatif, le bond en avant, hein. Marcuse s'enthousiasme alors pour la révolution contre-culturelle des années 60, de la musique de Bob Dylan et de John Bass au théâtre de la guérilla ou au surréalisme. Et enfin, Contre-révolution et révolte, 1974, et son dernier ouvrage, La dimension esthétique, en 77, sont le lieu où il pointe finalement le risque d'esthétisation du politique des formes culturelles, d'esthétisation du politique avec des formes culturelles trop officiellement engagées, et c'est là qu'il relègue la force véritable de l'art du côté de la forme. Un spécialiste de sa pensée, comme Douglas Kellner, qui a eu le loisir de l'interroger sur la question, Marcuse met en avant, au contraire, les continuités de sa théorie esthétique. Il rappelle aussi que les formes et utilisations politiques de l'art des années 60, qui ont réussi, selon lui, à combiner l'esthétique avec les messages politiques, étaient meilleures que celles des années 70, époque où, déjà, les formes de culture dissidente avaient perdu à la fois toute qualité esthétique et tout contenu politique. Il avait alors ressenti le besoin de revenir, hein, c'est ce qu'il dit en tout cas, sur l'héritage des valeurs esthétiques de l'art bourgeois. Dès lors, si on peut entendre la dimension esthétique comme un repli dans l'art pessimiste, à l'image de certains commentateurs comme Gérard Rollet, je voudrais plutôt finir en interprétant l'ouvrage comme une poursuite sans relâche de l'amendement de la théorie marxiste en fonction de la réalité des changements historiques en cours, et notamment d'un amendement du marxisme quant à la position du subjectif. L'essai porte à ce propos pour sous-titre « Pour une critique de l'esthétique marxiste » et s'attaque aux principales thèses sur l'art du marxisme orthodoxe, à commencer par celle du rapport entre contenu révolutionnaire dans une esthétique réaliste, susceptible de représenter au mieux la réalité des rapports sociaux. Donc rapport entre contenu révolutionnaire et qualité artistique, et évidemment le rapport consubséquent de l'artiste au prolétariat. Et finalement, le rapport de l'art à la praxis révolutionnaire. Le potentiel politique de l'art réside seulement dans sa propre dimension esthétique. Son rapport à la praxis est inévitablement indirect, médiatisé et décevant. Plus une œuvre est immédiatement politique, plus elle perd son pouvoir de décentrement et la radicalité, la transcendance de ses objectifs de changement. En ce sens, il se peut qu'il y ait plus de potentiel subversif dans la poésie de Baudelaire et de Rimbaud que dans les pièces didactiques de Brecht. On reconnaît dans cette proposition un écho assez présent de la position adornienne sur l'engagement, notamment l'engagement de l'artiste dans un débat qu'il a avec Sartre. Je vous ai mis Adorno ici. La prose de Kafka, les pièces de Beckett ou l'innommable, ce roman véritablement extraordinaire, produisent un effet à côté duquel les œuvres officiellement engagées ont l'air de jeux d'enfants. Ils font naître l'angoisse dont l'existentialisme ne fait que parler. En démontant l'apparence, ils font exploser de l'intérieur l'art que l'engagement affiché a servi de l'extérieur, et donc seulement en apparence. Leur caractère de nécessité implacable contraint à ce changement de comportement que les œuvres engagées ne font que réclamer. La valeur révolutionnaire d'une œuvre ne réside pas ainsi dans la volonté affichée de l'auteur, encore moins dans sa conscience de classe. L'art ne représente pas des intérêts de classe particuliers comme un message qu'il s'agirait de faire passer. C'est bien plutôt dans sa forme esthétique que repose son potentiel subversif, ou plus exactement, dans son contenu devenu forme, en ce que les deux ne s'opposent pas. Dans l'idée de penseurs comme Marcuse ou Adorno, le rapport de l'œuvre au social est médiatisé par les matériaux artistiques à partir desquels elle est composée, et dans lesquels du contenu historique et social s'est sédimenté. C'est l'agencement de ces matériaux, leur transformation, leur défiguration, ce qu'il reste de leur rapport de l'un à l'autre. C'est donc dans tout ça que... Et qui, enfin, dans tout cet ensemble, cet agencement qui se livre à la conscience du regardeur, et c'est par eux que l'œuvre présente au regardeur une image de l'altérité, de ce que pourrait être un monde autre. Par cette médiation particulière, l'art est une opposition, mais opposition qui contient également ce contre quoi elle s'oppose. Par ses éléments propres, le mot, la couleur, le ton, l'art dépend du matériau culturel transmis. Il le partage avec la société existante. Et il a beau bouleverser le sens ordinaire des mots et des images, cette transfiguration demeure celle d'un matériau donné. Tel est le cas, même lorsqu'on casse les mots et qu'on en invente de nouveaux, sinon toute communication serait rompue. Cette limitation de l'autonomie esthétique est la condition à laquelle l'art peut devenir un facteur social. En ce sens, l'art fait inévitablement partie de ce qui est, et c'est seulement en tant qu'il en fait partie qu'il peut élever la voix contre ce qui est. La contradiction est sauvegardée et résolue dans la forme esthétique qui transforme le contenu familier et l'expérience familière et leur donne pouvoir en les mettant à distance, conduisant ainsi à l'émergence d'une nouvelle conscience et d'une nouvelle perception. Marcuse défend ainsi une dialectique très fine entre l'autonomie nécessaire de l'art, sans quoi il tombe dans la réalité qu'il veut critiquer, et sa limite, c'est-à-dire que l'art qui aurait parfait son autonomie risquerait de devenir un simple jeu de forme, sans plus aucun pouvoir de contradiction. C'est donc justement dans ce maintien de la dialectique entre l'interrogation de la réalité existante dont il fait partie et qu'il critique en lui renvoyant ce que Marcuse appelle une image belle de la libération que réside le caractère radical de l'art. Il est probablement l'un des derniers lieux matériels hors de la pensée où peut exister cette sublimation. Par ce dernier ouvrage et dans la suite de propositions des précédents, Marcuse milite en faveur d'une réhabilitation de la dimension subjective qui avait été négligée et dévaluée par le marxisme comme notion douteuse et bourgeoise, dévaluation qui n'affecte pas seulement le sujet en tant qu'ego cogito, le sujet rationnel, mais aussi l'intériorité, les émotions et l'imagination. La subjectivité des individus, leur conscience et leur inconscient spécifique tendent à se dissoudre dans la conscience de classe. Il en résulte l'érosion d'une condition préalable essentielle de la révolution, à savoir que le besoin d'un changement radical doit avoir ses racines dans la subjectivité des individus eux-mêmes, dans leur intelligence et leur passion, leur pulsion et leur but. Voilà, c'est là-dessus que je vais finir cette présentation sur Marcuse. En gros, voilà, ce que je voulais donc mettre en avant, c'est ça, c'est cette position particulière de Marcuse dans le marxisme, finalement, hein, position qui est à la fois très marxiste, très dans la recherche d'un prolongement du marxisme, et donc du coup dans une critique, hein, toujours du marxisme, en fonction des situations historiques, hein. Critique qui d'abord se fait à partir de la phénoménologie, hein. C'est-à-dire que finalement le risque du marxisme, c'est peut-être de commencer par négliger des universels. Ça se prolonge finalement, cette recherche des universels dans l'apport du freudo-marxisme, hein, finalement, il y a peut-être des universels que Marcuse va chercher du côté de la psychanalyse. Et puis, hein, l'amendement majeur que Marcuse fait au marxisme, c'est celui de l'importance de la dimension subjective. Et donc il essaie de penser historiquement cette subjectivité et de voir quels sont les sujets qui l'apportent, cette subjectivité étant probablement l'un des seuls moyens de justement renverser, de renverser l'axe de l'histoire qui a été jusqu'ici uniquement pensé de manière quantitative. Voilà, merci beaucoup. C'est une catégorie, assez nébuleuse. De ce que moi je comprends, si tu veux, c'est le moyen d'essayer de penser ce que toute l'intégration de la société avancée a laissé un peu à la marge, mais qui, si tu veux, n'y sont que pour être probablement très vite récupérés. Voilà, c'est quelque chose de ça. Et donc du coup, eh ben, c'est en effet, si tu veux. Faut se rappeler que c'est écrit dans les années 60, au moment où justement il y a tout un tas de révoltes particulières et des femmes pour la libération des femmes, des étudiants, des noirs, etc. Et donc du coup, ce sont tous, en fait, Marcus, voilà des outsiders, c'est-à-dire des gens qui se battent pour parce qu'ils sont pas encore complètement intégrés.
D'accord, mais donc ça, c'est sur des groupes qui sont dans la contestation, c'est pas. Ouais.
Ah oui, d'accord, je comprends. Non, c'est-à-dire que c'est presque une condition. C'est une condition historique à un moment donné d'être outsider. Être noir fait que tu es outsider parce que tu portes, si tu veux, certains besoins particuliers. Si tu es femme, tu vois, tu portes certains besoins particuliers.
C'est en fait. Les étudiants, par contre, là,
pareil.
C'est...
pareil. Ils font partie de ces outsiders. De ce que j'en comprends. Comme je le disais, je ne suis pas tout à fait spécialiste de Marcus. Donc voilà, j'ai quelques bouquins d'avance peut-être sur vous, mais pas beaucoup.
C'est pour aller dans le sens. Il me semble que Robert Kurz reprend beaucoup ça. C'est effectivement l'extérieur du système, comme ça qu'aujourd'hui, c'est encore plus actuel.
C'est-à-dire la question de la contradiction par les outsiders. Enfin, en fait, qui en sont. Ce qui est bizarre, c'est que si tu veux, ils en sont exclus tout en étant dedans. Tu vois, c'est-à-dire que leur force de contradiction vient du système, mais est l'image finalement de quelque chose qui a été laissé sur le côté, quoi, d'une certaine manière, tu vois, dans l'intégration, et notamment de ce qui a été laissé sur le côté dans la dimension subjective de ce qui a pu être laissé sur le côté. C'est pour ça que l'exemple des femmes me paraît intéressant. Tu vois, c'est aussi, c'est finalement une construction historique d'une condition qui est reléguée. Voilà. D'une condition subjective, oui, pardon.
Mais ça va aussi dans des petites catégories. C'est aussi le fumeur de joint, le musicien de jazz, je fais
référence
à Becker.
Ouais, mais là, c'est pas Becker.
Et c'est surtout, c'est tous les mâles du conflit, ceux qu'on connaît pas, et que l'école de Chicago va étudier de très près pendant très longtemps pour essayer quand même de réécrire quelques causes d'outsider.
Je sais pas si ça a la même résonance chez Becker, je n'en suis pas certain.
Non, c'est juste un exemple, c'est-à-dire que ça ne se limite pas aux noirs, aux femmes.
Au moment où il écrit, c'est ça.
Oui, voilà, c'est que par la suite, ça a évolué pour devenir des toutes petites niches.
Oui, c'est ce que tu dis, finalement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des. Il faudrait trouver les outsiders d'aujourd'hui en ce qu'ils portent peut-être justement la conscience
aujourd'hui, partie-là de voir des démarches chinoises qui sont structurellement en dehors de notre travail, qui ne retrouvent plus jamais notre travail. Donc là, il me semble que c'est un phénomène qui est un peu différent, mais moi, je n'ai pas assez marqué. Je prends une sorte de nouvelle actualité par le fait que là, on gère une masse de gens de plus en plus grands qui sont extérieurs. Sont maintenus dans le dispositif.
Ensuite, Fabien.
Oui, merci à vous pour ce très très riche exposé. Moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé parce que je connais mal, je connais que l'unidimensionnel. C'est un peu une découverte. Je m'avais envie d'aller voir mon frère. Et en fait, c'est assez marrant parce que je me disais, j'ai relu hier soir en pensant à toi et à communication de ce matin, le texte de Honnête sur le cercle interne et le cercle externe de la théorie critique, avec donc cette idée que dans le cercle interne, il y aurait les principaux représentants, dont Marcuse, et puis un cercle externe composé de gens de figures un peu plus originales, comme Benjamin, Krakauer, sachant que selon Honnête, c'est là que se situent les forces vives et la fécondité de la théorie critique.
Dans les cercles, tu veux dire ?
Dans le cercle externe. Ouais. Et en fait, en t'écoutant, je suis très étonnée de ce diagnostic, de cette idée-là, parce que moi j'ai repéré pas mal de thèses dans ce que tu as présenté qui vraiment rejoignent les préoccupations non seulement de Honnête, mais aussi de nombreux penseurs occupés sur les questions de l'identité, de revendications culturelles, enfin, une nouvelle forme de lutte sociale, quoi, enfin, vraiment une grande attention à ça.
C'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment mettre en garde. Si tu veux, bon, Marcuse n'est pas beaucoup lu et il est présenté comme justement en faisant partie de ce cercle interne de la théorie critique, mais objectivement, c'est le moment où il est dans l'Institut de recherche en sciences sociales, c'est entre 30 et 40, entre 33 et 40, si tu veux, donc c'est 7 ans. Après, il est aux États-Unis, il est dans des universités, il est à San Diego, etc. Donc si tu veux. On a tendance à hypertrophier, si tu veux, cette importance de Marcuse dans la théorie critique. Et c'est vrai que, comme je le disais, hein, il participe à la définition philosophique de ce que c'est que la théorie critique, etc. Il se répond beaucoup avec Horkheimer, bien avant Adorno, tu vois. Adorno viendra avec un peu plus tard aux États-Unis aussi. Et c'est vrai que ce travail-là et cette perspective de travail qui est celle de la théorie critique avant et après la dialectique de la raison aura toujours des échos tout à fait importants chez Marcuse. Mais en effet, il me semble que pour moi, il aurait cette position étrange qui est que tout en étant à l'intérieur du premier cercle, il est quand même justement sur les bords, ou en tout cas dans le travail qu'il fait, il cherche vraiment à dépasser le repli qui caractérise Horkheimer et Adorno d'après Retour en Allemagne. Donc voilà, c'est.
Okay.
Ouais, pardon.
Non, mais attends, moi, en tout cas, je me dis comme ça en t'écoutant que ça me semble être un jugement peut-être un peu sévère. Alors, voilà.
De quoi ?
Le jugement de Honnête sur le travail de Marcuse qui, généralement, réduit à sa dimension unidimensionnelle,
ouais.
et au climat de la question de la raison instrumentale, comme chez Adorno, Horkheimer. Voilà. Mais pas du tout d'attention à la dimension vraiment de la recherche.
Ouais.
Mais la question que je voulais poser, c'était pas forcément ça, c'était plutôt est-ce que tu pourrais me dire un petit peu plus sur la conception de l'imagination. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur le concept d'imagination chez Marcuse. J'en ai dit quelques mots, mais j'ai besoin de plus être systématique. Hein. Comment est-ce qu'il a défini, à partir d'où est-ce qu'il travaille ce concept ?
C'est vraiment pas simple. En fait, on peut interpréter. Il y a plusieurs manières d'interpréter la catégorie de l'imagination chez Marcuse. En fait, l'imagination, ce serait ce dans quoi a été relégué toute possibilité de penser une alternative ou un autre dans la société unidimensionnelle. En même temps, euh, sais pas comment dire. Et en même temps, elle a un caractère, si tu veux, qu'il faut mettre en valeur. C'est bizarre. C'est une dimension à la fois probablement pulsionnelle, presque existentielle, et en même temps quelque chose d'historique, tu vois. Et en fait, c'est très très difficile de saisir cette catégorie. Il y a des penseurs, par exemple, des gens qui travaillent la pensée de Marcuse, qui en gros voient chez lui une opposition entre d'un côté une dialectique de l'imagination et de l'autre côté un fondement ontologique de la critique dans la vie. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Si tu veux. L'imagination, c'est vraiment une catégorie qui définit jamais vraiment en plus. Donc, tu vois, voilà, qui contient des forces de contradiction, sert de réservoir, si tu veux, des forces de contradiction. Même des fois anthropologiquement qui sont là depuis très longtemps, quoi, tu vois, qui sont maintenus historiquement, et donc ça peut servir de réservoir de ça, et en même temps c'est quelque chose qui est complètement asservi, sclérosé par la pensée unidimensionnelle qui la caractérise aussi, tu vois, c'est un truc un peu bizarre. J'ai pas vraiment travaillé sur l'imagination chez Marcuse. Mais disons que je pense que, en tout cas pour moi, le moyen de nous sortir de ce guépier, c'est de rester sur cette catégorie-là, je pense.
Parce qu'à travers ce que tu as présenté, on peut comme ça avoir l'intuition que, au fond, c'est un peu le fil directeur de sa pensée quand même.
Le
fil directeur,
ouais.
Avec une thèse sur Schiller, et puis
avec une thèse sur le roman d'artiste allemand. Oui, c'est vrai, j'ai pas réfléchi dans ces termes-là, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est une dimension qui est centrale, mais qui est centrale sans être définie comme centrale, si tu veux. Désolé, je n'ai pas dû arrêter.
Très bien. Oui, merci pour cette présentation d'abord, qui était très riche, très rapide. Moi, je voulais revenir un peu sur le premier débat qu'on a eu, enfin, les premières questions qui portaient sur la question des outsiders. Moi, ça me paraît, alors c'est des souvenirs que j'ai de lecture de l'homme unidimensionnel qui datent, et j'ai par fainéantise pas remis les dents. Il y a deux choses, il me semble qu'effectivement la question de derrière outsiders, il met plein de choses très différentes. Quel rapport entre les mouvements étudiants et les parias de la société, l'open prolétariat, ils rentrent ça dans une même catégorie. En quoi est-ce que le mouvement étudiant aux États-Unis, au moment où il y est, ou le mai 68, où il y avait quand même, on parlait en mai 68, des 3M, Marx, Mao, Marcuse, où c'était effectivement un des penseurs qu'on mettait à hauteur de Marx et de Mao. Il me semble que c'est vraiment une catégorie fourre-tout, une catégorie d'acteurs, de sujets sociaux qui seraient en marge, mais en quoi, encore une fois, est-ce que les femmes sont en marge de la société, en quoi est-ce que le mouvement étudiant est en marge de la société. On pourrait même dire que, s'agissant des étudiants, c'est quand même justement une catégorie de sujets sociaux qui bénéficient d'un capital culturel, qui sont d'un certain point de vue pas du tout en marge, mais centraux, enfin bon, voilà. Mais il y a tout un aspect dont tu n'as pas parlé, enfin, que tu as juste évoqué. Il me semble que cette catégorie-là, on la comprend mieux si tu la mets en balance du grand refus. C'est-à-dire que les marges et les sujets sociaux marginaux ne sont pas simplement des sujets sociaux mis en marge par les sociétés capitalistes avancées, mais c'est aussi une stratégie quasi-révolutionnaire de révolution sociale que de se mettre en marge. Voilà, c'est se produire en tant que sujet marginal est une forme de résistance ou une forme de contradiction avec une efficience vis-à-vis des sociétés capitalistes avancées. Et c'est cette chose bizarre entre les marges produites par la société et se mettre en marge de la société qui produit des marges, qui serait une espèce de décalage comme ça, qui produirait justement des avancées sociales. Est-ce que tu as plus de choses là-dessus?
Oui, c'est ça. Non, c'est ça.
Parce que mes souvenirs sont très, 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 très éloignés.
Oui, ils sont trop récents, tu vois. Voilà. Mais, non, alors, c'est
on
ça.
On va peut-être réussir à faire quelque chose entre le vieux et...
C'est ça. Mais il y a un truc qui me paraît très important, si tu veux, dans cette catégorie. C'est que c'est pas être en marge, c'est pas uniquement être en marge de la société, justement, que, comme tu disais, Hervé, tu vois, uniquement par rapport à la question économique, si tu veux. C'est aussi, finalement, manifester une subjectivité particulière qui ne rencontre pas d'écho ou de possibilité, ou qui ne trouve pas à s'incarner, si tu veux, dans la société unidimensionnelle. Et moi, c'est comme ça que je comprends le grand refus, si tu veux. Après, le problème vraiment le problème, c'est que Outsiders, tu veux, il en dit, je crois, un mot à la fin. C'est genre la dernière page de l'homme unidimensionnel. Et après, finalement, il va davantage se analyser typiquement, et les étudiants, et puis les femmes, etc. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment de définition de cette... pas à ma connaissance, peut-être en âge, de cette catégorie, ce que c'est, ce que ça représente. Pour moi, il l'utilise comme... il faut le comprendre dans sa recherche de ce qui est le sujet qui est la négation de cette société et à qui on pourra éventuellement faire porter la révolution. Donc ça, c'est la fin de l'homme unidimensionnel. Et ensuite, très vite, elle est caractérisée par des besoins particuliers, vraiment, et presque biologiquement. Il y a un rapport entre l'histoire et la nature chez Marcus qui rend une dialectique très très fine, quoi. C'est-à-dire que c'est des besoins qui sont ressentis comme des besoins naturels, etc., mais qui sont en partie aussi produits par la société, et c'est à partir de cela que justement on peut mettre en valeur une dimension que la société, qu'elle soit pensée de manière unidimensionnelle ou même pensée dans la critique de l'économie, de l'économie politique marxiste, est toujours pensée en termes qualitatifs. Et c'est justement le besoin qui fait un peu ce pendant. C'est un peu comme si finalement, à la fin de l'homme unidimensionnel, c'est pas possible de penser une contradiction entre, pour simplifier, richesse, pauvreté, quoi, ou exploitation et domination, enfin, conditions de dominer, conditions de dominant dans le processus de production. Et donc, du coup, l'aspect dialectique va se retrouver entre finalement dimension limitée dans son unidimensionnalité à la question matérielle et dimension davantage subjective.
C'est là où ça coince, à mon avis. Enfin, il pointe ce que la sociologie de l'action collective a pointé dans ces années-là, à savoir l'arrivée dans le champ de la conflictualité sociale de contradictions qui ne sont pas liées à la contradiction capital-travail. Donc c'est pas le sujet historique, c'est pas le prolétariat qui produit la conflictualité sociale, c'est les homosexuels, c'est les immigrés, c'est ceci, c'est cela, etc. Mais ce qui me semble bizarre, alors je ne sais pas si c'est chez Marcus ou la façon que tu as eu de le présenter, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là portent des subjectivités qui auraient un potentiel justement de radicalité, qui pourrait être au principe d'une révolution sociale, etc. Mais enfin, le prolétariat a une subjectivité aussi. L'idée de mettre la subjectivité du côté de ce qu'on a pu appeler les nouveaux mouvements sociaux, et enfin, ça me semble être étonnant. Enfin, comme si la subjectivité était une nouvelle.
Non, c'est pas ça.
La production de nouvelles, issue de nouvelles formes de contradictions qui s'exprimeraient à un moment donné. La subjectivité, c'est une condition de l'homme.
Non, c'est pas ça. En fait, si tu veux, c'est plutôt en tant que classe historique et que ça place dans justement le mouvement de la révolution, le prolétariat. Il est toujours au cœur de l'appareil de production, et Marcus ne dit pas qu'il faut s'éloigner de ça, c'est-à-dire que ça reste quand même central. Mais, si tu veux, dans son intégration, il perd d'une certaine manière, pas sa subjectivité, mais sa conscience. Tu vois, il perd sa conscience de, justement, sa propre place dans le processus. Et
À l'inverse, ces outsiders, eux, ont pleinement conscience de leur aspect, de l'aspect contradictoire de leurs revendications, etc. Mais il leur manque justement cette position objective de pouvoir stopper l'appareil de production. Enfin, voilà. Et si tu veux, c'est plutôt à penser dans un rapport des deux. C'est pas les noirs, enfin, les outsiders sont pas les nouveaux prolétaires. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils, leur force, c'est ils le disent. Enfin, ça dépend des moments. Quoi. Des fois, ils s'enthousiasment, ils trouvent que c'est très révolutionnaire. Des fois, non. Mais en tout cas, c'est plutôt que ça porte une subjectivité qui autrefois était celle du prolétariat et n'était pas dissociable de la position aussi objective dans le processus de production. Tu vois ? Alors, en tout cas, je crois que c'est ça. Je crois que je comprends.
Si
je peux
me permettre. C'est utilisé outsider dans le texte en français, hein, c'est ça ?
Oui.
Parce que outsider dans un système, par exemple, des forces oppositionnelles classiques, ça serait un outsider, c'est comme dans les élections, par exemple. On prédit que telle ou telle personne pourrait accéder au pouvoir. Par contre, il y a un terme qu'on appelle un outsider, même dans les courses, etc., c'est un terme très utilisé, c'est le côté non prédictible. C'est-à-dire qu'on identifie des acteurs, mais on ne peut pas prédire ce qu'ils seront. Il y a un potentiel de radicalité, comme tu disais tantôt, Fabien, mais on ne peut pas savoir comment ça va se concrétiser. Et c'est le côté non prédictible qui me paraît intéressant en termes d'outsider. C'est pas le fait, par exemple, que ça définisse un groupe comme tel. C'est un peu dans cette perspective-là que je le verrais par rapport aux forces oppositionnelles classiques, tu vois. Donc, où on sait très bien les rapports de force, les rapports sociaux, etc., sont identifiables. Mais est-ce que ces acteurs-là, finalement, est-ce qu'on peut prédire un taux de, par exemple, de réalisation de cette radicalité des rapports de force qui peuvent être. Ça, c'est un peu ça. Et puis, à l'époque, effectivement, c'était un peu difficile de prédire ça. Difficile. Et même encore aujourd'hui, on peut identifier un certain nombre d'agents de changement, mais encore faut-il que ces agents de ce changement-là soient un peu organisés, puissent s'identifier comme tels, se regrouper comme tels. Donc, il y a un potentiel, mais non prédictible, entre guillemets. Donc, c'est juste pour apporter une petite réflexion là-dessus. Moi, ce qui m'apparaissait plus problématique, c'est que je ne vois aucun acteur social. Il n'y a pas d'acteurs sociaux. Hein. Si on parle de la société en général, il n'y a pas l'État, il n'y a aucune unité, on peut dire. Pas de société civile ou quoi que ce soit, là, tu sais, pas de sociologie du tout. On pense la société est répressive, mais qui dans la société, par contre, les agents, on en parle de façon précise, les agents de changement, on identifie les acteurs. Mais pour ce qui est de l'appareil de domination, de répression, etc., rien. Plus de rien. C'est la société qui est répressive, c'est la société qui domine, etc. Ça, c'est un peu particulier. C'est comme si elle avait. C'est comme si d'un côté il y avait la société, les sociétés répressives, dominatrices et tout. De l'autre côté, on identifiait ici et là quelques agents de changement. C'est un peu ces deux paramètres.
Oui, c'est une critique qui lui est faite régulièrement. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas, il ne faut pas penser que c'est une sociologie descriptive de ce qu'est la société. Donc, je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire que, oui, c'est pas un sociologue empirique, quoi. C'est clairement pas ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il cherche quand même à construire derrière, c'est une philosophie.
qui soit à l'écoute des conclusions de différentes recherches des sciences analytiques. Il cite par exemple des penseurs, justement des penseurs de, enfin des sociologues de, justement des classes moyennes, etc. Mais oui, c'est pas le cœur de la chose. Je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être ta réflexion. Enfin, je suis particulièrement intéressé par ta réflexion précédente. En fait, si je comprends bien, toi, tu entends les outsiders comme finalement définissant une radicalité de type guérilla, quoi.
Oui, donc non prédictible, c'est-à-dire que...
Mais qu'est-ce que tu entends par non prédictible
de outsider?
Mais ça veut dire quoi, non prédictible? C'est-à-dire que, qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas...
Exactement, c'est pas dans les formes d'opposition classique, reconnue, entendue, etc.
Dont on ne connaît pas finalement la portée radicale au final.
Tout à fait.
Alors ça, c'est intéressant.
C'est prétendu. C'est-à-dire qu'on prétend, mais c'est difficile de prédire. Alors que finalement, on peut penser que les luttes ouvrières, on sait qu'il y a une mobilisation, une organisation derrière, etc. On peut prédire un certain nombre de mouvements sociaux, etc. Alors que là, c'est parce que ce sont des formes organisées. Alors que par ailleurs, cette idée du outsider, moi, c'est une image du outsider, parce que c'est une image. Hein, c'est dans les courses de chevaux, c'est le outsider, c'est celui qu'on n'attendait pas, hein, qui a remporté. Alors donc, on peut penser que certains potentiels de radicalité peut être chez des agents de changement auxquels on ne s'attend pas finalement nécessairement une mobilisation.
En tout cas, alors,
là, c'est parce qu'il faut remettre ça dans le contexte. Hein,
c'est ça. Hein,
qu'est-ce qui disait qu'au départ, par exemple, le mouvement contre-culturel, hippie, tout ça, pouvait être contestataire. C'est quand il est associé finalement au mouvement pacifiste, puis finalement au mouvement contre la guerre du Vietnam, etc., que le mouvement prend une allure un peu plus politique, et quand il y a tout finalement le mouvement bon, des Black Panthers, etc., bon, tu sais, aux États-Unis, il y a quand même un certain nombre d'actions qui sont menées à l'époque aux États-Unis.
Oui, bien sûr. Oui.
Et qui, c'est là qu'on c'est là-dedans voit émerger des forces de résistance.
Oui, non, c'est ça. Et c'est en rapport avec cette réalité-là, qui est la réalité de l'Amérique des années 60 et 70, qu'il faut comprendre les textes de Marcuse. Enfin, Marcuse, voilà, cherche à analyser ça, tout en essayant que ça serve directement aux gens qu'il est en train de, enfin, dont il est en train d'essayer d'analyser la radicalisation. Donc, pour revenir sur ça, bon, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, justement, il y a un article de Rudi Lutschke et de Hans Jürgen Krall, l'autre leader des forces étudiantes allemandes, qui écrivent justement un papier, je ne sais plus comment il s'appelle, mais que voilà, pratiquer la révolution, ça implique une mentalité guérilla. Justement, c'est pour ça que je te demandais si c'était lié à la guérilla, donc du coup ça viendrait corroborer, enfin, ça irait dans le sens de ce que tu dis.
Des besoins, on va dire, culturels. Et à ce moment-là, on intègre toutes sortes de communautés qui revendiquent des besoins culturels, qu'ils soient religieux, idéologiques, géographiques, etc. Et dans ce cas, ça s'étend encore plus loin et ça devient encore moins contrôlable que les outsiders classiques.
Je disais ça, mais ils seront quand même contre
là. Extrême, au terrorisme lié aux religions.
Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, mais avec l'idée quand même que
tôt ou tard, ils seront intégrés.
Parce qu'ils ne sont pas outsiders nécessairement par rapport à la société, mais ils sont outsiders par rapport aux forces oppositionnelles classiques. C'est un peu ça. D'autres questions pour le moment? Fabien.
C'est pas une question, moi j'aimerais bien. Il y a deux éléments dont tu as parlé sur lesquels j'aimerais bien que tu reviennes éventuellement pour développer un peu plus. C'est d'une part le rapport de Marcuse à l'interdisciplinarité, à sa nécessité de philosophie concrète. Comment lui il envisage les choses de manière pratique. Et sur la dernière partie de ton exposé, sur l'esthétique, je crois qu'il y a pas mal de gens à la salle qui seraient intéressés à en savoir un peu plus, la question de la sensibilité au monde et l'esthétique comme forme de critique particulière, finalement, qui serait quelque chose justement de connexe à la critique théorique et à la critique sociale. Et comment ça se combine?
Sur ce dernier point, c'est c'est assez compliqué, c'est-à-dire que il n'y a pas, c'est pas une pensée, si tu veux, je crois en tout cas, du sujet artiste. C'est-à-dire que la force radicale de l'art, elle est à l'intérieur même, elle est dans son comportement, mais dans le comportement justement de l'art, dans la manière dont ces matériaux mis ensemble, transfigurés, etc., renvoient au monde lui-même une image de l'altérité, tu vois, quelque chose qui est... et donc du coup, si tu veux, il n'y a pas de... Il y a potentiellement un sujet récepteur de l'art, mais dont il ne dit pas grand-chose. Voilà, c'est vraiment une pensée de l'art qui étudie l'art lui-même. C'est vraiment là-dedans que ça se passe. Donc, je ne sais pas encore complètement comment ça peut s'intégrer justement dans une réflexion sur le territoire de la critique ou des trucs comme ça. Tu sens bien, il le dit, d'ailleurs je crois que je vous l'ai fait passer, s'il s'intéresse à l'art, tu vois, pas, j'ai plus de 17, c'est justement parce qu'il lui paraît nécessaire de penser la dimension subjective qui est au départ de toute révolution. Peut-être. Le besoin d'un changement radical doit avoir ses racines dans la subjectivité des individus, dans l'intelligence, leur passion, leur pulsion, leur but. Et il met ça au début d'un travail sur l'art. Donc, tu vois, il y a un lien qui a à faire ou à penser, mais si tu veux, il n'empêche que il parle essentiellement de l'art. Et en fait, c'est plutôt même pour critiquer, d'ailleurs c'est le sous-titre, pour critiquer l'esthétique marxiste qui, vulgairement, en tout cas dans certains de ses développements, voit une nécessité de l'engagement de l'artiste, pense la question des rapports de classe et de sa traduction dans les contenus de l'art, etc. Là, si tu veux, c'est presque une bouteille lancée pour un appel pour dire « Ah, ben non, finalement, à l'inverse de ce qu'on a pu croire justement dans les années 60, où il fallait, il faudrait chanter, non, c'est pas bien la guerre. » Voilà, ben non, en fait, c'est pas justement dans cette partie-là du contenu, c'est plutôt dans la forme, et c'est vraiment dans la forme que ça se passe. Et en gros, il faudrait que des esthéticiens marxistes se posent cette question-là et voient justement comment ça se passe, ce qu'on peut faire avec, comment...
Là, le passage que tu ouais. donnes, et dans ce passage-là, le passage que tu cites, c'est plutôt la fin, ouais. C'est justement pas sur les contenus, c'est sur la subjectivité et sur les sujets.
Oui, je sais.
Comment est-ce que l'art, d'une manière générale, va armer le sujet critique?
Alors, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il dit de ça? Rien. D'accord.
Enfin, il dit qu'il attire l'attention sur le fait qu'il faut réfléchir à cette question. Mais en gros, après, c'est vraiment l'art dans sa forme, dans son contenu devenu forme, dans la manière dont il fonctionne, si tu veux, qui est à prendre en compte par rapport à ça. Et mais si tu veux, là encore, il faut le remettre vraiment, il faut le remettre dans l'histoire de l'époque, quoi. C'est justement des débats, je vais rappeler, tu vois, avec Sartre, qui lui a une idée tout à fait claire sur qu'est-ce que c'est que l'artiste engagé, etc. C'est vraiment une réflexion là-dessus, et c'est un tout petit bouquin, c'est un peu bizarre, quoi. Moi aussi, j'ai un peu l'impression que ça, qu'on
ça n'arrive pas au bout de ce que l'introduction pourrait laisser entendre. Mais voilà, mais c'est vraiment une forme de bouteille à la mer, c'est un bouquin, je vous recommande, je ne sais pas si c'est un truc. Bon, c'est impossible à trouver, ouais. On l'a cherché un bon moment. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de. C'est assez poétique et tout ça. On sent que c'est la fin. Là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui l'interprètent comme un repli.
On a le droit de le voir ou.
Faire gaffe parce que.
On la note pas, quoi.
Mais voilà, moi je la note moi-même. J'y tiens beaucoup parce que. Non mais il se trouve, les derniers prix c'est 60€ si vous voulez dans l'occasion et tout là, donc voilà mais rangez vos encriers, vous savez déjà que je suis assez fétichiste et connu pour ça, comme le disait Michel. Donc voilà.
Cela dit, moi je suis pas certaine qu'il y ait une contradiction entre les dernières lignes. Est-ce que c'est pas plutôt l'idée que le sujet, c'est le sujet de la réception là,
hein? Oui, c'est ça.
Le dans sa forme et son contenu peut opérer un bouleversement de la sensibilité. Et donc le sujet il reste présent et peut-être pas tant à travers l'artiste, il est pensé à travers le sujet de la réception de l'œuvre.
C'est ça, mais si tu veux, c'est pas une analyse de ce que c'est que la communication artistique, quoi, et de comment ça produit. Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'il va plus loin sur en quoi est-ce que ça constitue le sujet critique, l'expérience esthétique, la forme de la critique esthétique. En quoi est-ce que ça arme les personnes pour justement aller vers le changement social. Est-ce qu'il y a une théorie de ça?
L'extrait que tu as montré à la fin, là, sur l'art, là, qui permet de casser les mots, de recréer un langage à partir de ce qui existe, je trouve que sans aller jusqu'à. Il y a quand même des pistes très.
C'est ça. Mais finalement, d'une certaine manière, ça rejoint un peu la question première que tu disais, et, si tu veux, c'est-à-dire que. La pensée marcusienne, les écrits marcusiens, et comme d'ailleurs beaucoup des écrits de la théorie critique à cette époque-là, ça se retrouve même presque chez Honnête, je crois, mais d'une autre manière. Si tu veux, c'est aussi un mode de pensée, un mode d'écriture qui s'était un peu stabilisé dans l'Allemagne de Weimar, quoi. C'est-à-dire que c'est pas fréquent, chez Adorno c'est pire, mais il n'y a pas des notes de bas de page partout pour dire à qui tu prends les choses, tu vois, c'est pas pensé de cette manière-là. Et du coup, c'est aussi. Il y a aussi une forme philosophique et presque poétique du texte et de ce qu'on cherche à faire, et à aucun moment il va t'écrire c'est comme ça que ça se passe, voilà, il faut le comprendre d'une autre manière, et finalement c'est aussi là son projet de philosophie concrète et la question de l'interdisciplinarité, c'est que pour lui finalement il reste je crois dans la vision qui était celle de la théorie critique du départ, qui est une interdisciplinarité des sciences, c'est-à-dire un apport commun sur un sujet de plusieurs sciences analytiques précises sous l'intégration de la philosophie. Alors que Adorno et Horkheimer finissent par attester de l'échec de ce projet-là, dans la dialectique de la raison, je crois que Marcus continuera à essayer cette. C'est vraiment une pensée d'interdisciplinarité comme ça. J'ai répondu à tes questions.
Oui.
Il y a peut-être cette autre brique de la technologie, du coup, qui est intéressante aussi à discuter, parce que j'ai un peu l'impression qu'il reconnaît peut-être à l'art, aussi une dimension liée à l'écrit, ou enfin, il n'arrive pas à reconnaître à la technologie. Il a finalement une vision assez. Il n'y a pas dans la technologie une dimension libératrice possible. Non, d'après les souvenirs des quelques textes que j'ai lus de Marcus, j'ai pas du tout repéré.
C'est-à-dire que la technologie. Moi je ne me suis pas beaucoup encore intéressé à cette question-là, mais en gros, ce que je crois comprendre, c'est que la technologie, si tu veux, c'est la rationalité de la technique qui est devenue logos. Tu vois, c'est technologie, voilà, exactement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il y a une raison, instrumental, qui sert, qui doit servir l'émancipation, etc., mais qui se bloque en devenant logos. Tu vois, c'est quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, je ne suis pas allé beaucoup plus loin que ça. Et donc, du coup, le problème de la technologie, c'est celui-là. Après, si tu veux, c'est en grande partie cette technologie-là qui est au fondement de la société unidimensionnelle. Et en effet, l'art a maintenu, lui, justement, cette dimension de ce qui, tout en étant là, ne l'est pas et montre ce que ça pourrait être qu'il n'est pas, tu vois. Et donc oui, là-dessus, oui, c'est ça.
Puis j'aurais aussi une question, mais qui est plus anecdotique, mais son parcours, quand il va exposer, m'a évidemment beaucoup rappelé, surtout à ses débuts, hein, celui de Hannah Arendt. Hein, ouais. Parce que vous avez notamment le même directeur d'habilitation. Et donc, du coup, je me pose juste la question, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu. Parce que là, franchement, je n'ai pas ça présent à l'esprit. Est-ce qu'il y a des croisements entre les deux pensées? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Et puis aussi, comment est-ce que ce sont. Parce que, évidemment, la relation de Hannah Arendt à Heidegger est très complexe. Et est-ce est-ce que le. Pour Marcuse, il y a eu aussi cette complexité dans les rapports?
Oui, complètement. Alors, pour ce qui est de Marcuse Hannah Arendt, je ne sais pas, j'en sais rien. J'ai pas le souvenir d'avoir vu des débats entre eux, ou même des réponses et tout. Par contre, ce qui est clair, c'est que oui, en effet, si tu veux, c'est des philosophes qui ont, entre guillemets, ce tort, disons, d'avoir été proche de la pensée heideggerienne au départ, enfin, à être étant. Mais bon, il y a des gens très bien qui ont été proches de la pensée heideggerienne au départ. Et si tu veux, en tant que philosophe juif, il y a un moment, ben voilà, comment expliquer que j'ai pu, pour le dire simplement, que j'ai pu être proche de cette pensée-là en pensant que c'était ce qui se faisait de mieux en matière de philosophie au moment où ça existe, et que j'y vois l'espoir justement d'interroger le marxisme en disant que ben voilà, peut-être que le marxisme, certes, il permet de penser l'histoire, mais il oublie peut-être des universels, des fondamentaux, et donc voilà, à partir de cette pensée-là, je vais questionner le marxisme. Et je m'aperçois que ça a mené à Heidegger, finalement, à célébrer, enfin, pas à célébrer, je ne sais pas si c'est célébrer le mot, mais voilà, à s'engager en faveur du national-socialisme. Il y a un article très, très intéressant, justement, dans la partie théorie-critique. En plus, je ne sais pas si ce n'est pas quelque chose que les autres penseurs de la théorie-critique lui ont un peu reproché longtemps, tu vois, d'avoir été proche d'Heidegger, dans... Culture et société, il y a un article, je ne sais plus, de 34, peut-être, ou 35, où Marcuse règle ses comptes avec Heidegger, en expliquant à quel point, s'il a pu être enthousiaste à un moment, c'était une impasse complète, et voilà, c'est... Je ne sais pas si j'en ai parlé, parce que je n'ai pas dit tout ce que j'avais prévu de dire, mais voilà, c'est-à-dire que... Donc voilà, il y a en effet une sorte de problème à Heidegger, quoi. Très vite après, on n'en parle plus. Quoi. Mais bon, en même temps, je crois que la philosophie de la théorie critique a passé sa vie à régler ses comptes avec Heidegger. Même Adorno, le jargon de l'authenticité, c'est régler ses comptes avec Heidegger. La dialectique locative, c'est très clairement un règlement de compte avec Heidegger. Donc voilà, Marcuse le fait aussi. Et, si tu veux, je crois qu'il y a un moment... une nécessité, mais qui est peut-être une nécessité, tu vois, qui est liée au moment historique, qui est de bien expliquer que voilà, une philosophie qui a pu être à un moment émancipatrice a fini justement par ces débris de nazisme, et voilà, de voir comment on s'en émancipe, et surtout quand c'était ton directeur de thèse. Voilà, je sais pas si... Mais pour Hannah Arendt, je sais pas. Enfin, je vois ce dont tu parles, hein, c'est... J'ai pas pensé à faire le rapprochement, et en tout cas, de mes lectures, il est pas vu comme ça de mes lectures.
Je pense que effectivement là c'est
sommes là liés à la question, ça me renvoyait aux figures du dissensus chez Rancière, pour intégrer du sensible face à la réification. Revenir à la question des outsiders, j'ai l'impression que le Gorce, l'adieu au prolétariat, était tout à fait dans la filiation de Marcuse. Et puis je veux juste revenir sur Robert Kurtz et sur le fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est quand même que ces outsiders étaient appelés à terme à être intégrés dans le système. Est-ce que si on veut actualiser cette question-là, c'est qu'aujourd'hui, Marcuse parle plutôt des inutiles, entre guillemets, c'est des gens qui sont exclus du système de production, du travail, du chômage à long terme, c'est pas du tout une question économique. C'est un système qui fonctionne avec de moins en moins de personnes pour faire fonctionner par l'automation et un certain nombre de choses. Et ça, c'est un point qui est particulièrement sensible, me semble-t-il, qui rejoint la notion d'outsider, mais pas de la même manière que celui de Marc-Marc-Marc. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont exclus à long terme du système, qui sont maintenus par un dispositif social pour qu'effectivement ça ne repose pas. Alors est-ce que ces gens sont porteurs d'une subjectivité, d'une vision politique ou pas, ça c'est une autre question, mais en tout cas, je suis sensible à ce fait. Aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce qu'on exploite ou pas exploité, c'est si on est si on a un pied dans l'activité.
Ouais, je ne connais pas l'auteur dont tu parles, mais ça pourrait être intéressant justement de voir si lui-même reprend cette catégorie, d'où est-ce qu'il la reprend.
La notion d'outsider, mais je ne sais pas s'il la reprend.
Tu vois, parce que
je ne sais pas s'il la relie à Marx.
Ça me paraît trop précis dans ce que tu dis pour être repris à. Tu vois,
Merci Christophe.
Et mon livre s'appelle Reviens.
Ah oui.